Bonjour tout le monde. Bonjour Vincent.
Allô?
Vincent, mon mari, mon partenaire d'affaires, le père de notre enfant.
Présent.
D'un an et demi. Et mon meilleur ami.
Têteuse.
Donc, c'était cet épisode 6, c'est la partie 2 de l'épisode solo.
Mm-hmm.
En fait, on le fait en duo parce que la suite de l'histoire de Vivace, puis de mon histoire, c'est ce qui arrive après notre rencontre.
Mm-hmm. Cette fois-ci, il est enregistré en vidéo. Cette solo ne l'était pas, mais là, on peut voir aussi l'épisode.
Parce qu'on a l'aide d'une gardienne, ce qui est tellement précieux.
Oui!
Notre amie Elisabeth Dufresne. Je pense qu'on va dire son nom tellement de fois maintenant.
Oui, on l'attend partout tout le temps.
Merci, Elisabeth. Avec l'épisode solo, mon récit à moi est beaucoup axé sur ma guérison, ma quête de guérison de l'anxiété.
Mm-hmm.
Mais toi, tu n'es pas pantoute anxieux dans la vie.
Non! Très peu anxieux. On avait fait des tests psychométriques à un certain moment. Puis j'étais comme anormalement peu anxieux.
Ouais. Le classique Big Five qui appelle.
Ouais.
Il y a un des piliers qui s'appelle le neuroticisme, je pense. Le neurotisme.
Quelque chose comme ça. Ouais.
Et moi, j'étais particulièrement élevée dans ça. Et Vince était anormalement bas, genre.
Bas, ouais.
Comme dans en bas du 10e, genre 7e percentile, ce qui est comme 93% de la population est plus neurotique que dans la vie.
Puis je pense qu'il te fallait ça dans la vie. Il te fallait quelqu'un comme ça.
Ben, moi, je t'appelais mon paratonnerre. Parce que je trouve que c'est ça, c'est là où tu m'as apporté beaucoup dans la vie. Tu as des forces où on se complète. Puis... Fait, mais c'est ça, mais le fait que tu n'es pas anxieux, ça ne t'a quand même pas immunisé à des défis, de la souffrance.
Mm-hmm.
Tu as eu ta propre quête personnelle à toi. Puis
ouais.
Je pense qu'à. Peu comme tout le monde, en fait, à plusieurs moments dans ta vie, tu sens que tu as dû choisir entre... Il y avait comme une détention entre ton besoin d'intégrité puis ton besoin d'appartenance.
Mm-hmm.
Fait que si c'est pas l'anxiété, toi, tu décrirais ton défi principal comment?
Ben, je dirais que une anxiété très basse, un revers aussi. Puis de ce que j'ai vécu, moi, c'était comme... Quand je l'ai décrit des fois, c'est que pendant longtemps, j'ai l'impression que je dérivais un peu. C'est que je m'engageais à rien. C'était très facile pour moi de me désengager, en fait. Pas rien prendre trop au sérieux. Mais c'est ça, le revers de ça, c'est que... C'est ça, je m'engageais peu souvent, peu longtemps.
Mm.
Puis j'étais très... comment dire? Let go, tu sais.
Mm.
Puis c'est cool d'avoir ça, mais... Il y a un revers.
Ouais.
Il y a un revers à ça qui m'a suivi longtemps. Tu sais.
Mais je pense que je suis beaucoup attachée au passé, puis je regarde beaucoup vers le futur, puis je suis vraiment pas dans le moment présent. Et puis toi, tu es dans
le moment présent. C'est comme le contraire, ouais, moi.
C'est
ouais.
Vraiment le contraire. Puis ça fait que tu n'es pas tant que ça parce que tu ne fais pas des scénarios dehors de tout ce qui pourrait arriver, puis tu n'as pas sur ta conscience plein de choses du passé
non,
qui t'alourdit.
Ouais.
Mais en même temps, c'est ça, fait que ta présence est dans le moment. Fait que tu peux t'adapter à plein de choses, mais ça fait aussi que tu sais, tu te détachais facilement.
Je me projetais pas beaucoup, fait que tu sais, mon parcours de vie jusqu'à plutôt récemment, j'ai longtemps vu ça comme une dérive, tu sais, jusqu'à temps que je m'arrête, que je fasse, oh, tu sais, vers où je m'en vais en ce moment, pourquoi je m'en vais par là, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, tu sais.
Mm-hmm.
Ça a été un petit wake-up call après l'université, je sais.
Mais c'était une dérive, mais c'était une quête de sens, finalement. C'est comme dans le sens que t'es...
Ben, pourquoi je fais les choses, t'sais? Ouais. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux représenter? Qui je veux être? Ouais. Toutes ces questions-là. Je m'étais pas tant posé ça avant tard dans ma vie, tu sais. À cause de mon anxiété très basse. J'étais genre, ouais, on verra bien, puis on va laisser ça aller, puis
on va suivre
le flow, tu sais. On va suivre le flow, c'est un peu ça, mais...
Moi, on avait des perspectives différentes. T'sais, je pense qu'une partie de moi, même si j'étais full anxieuse, j'étais quand même très optimiste parce que j'étais super déterminée puis persévérante. Mm. Fait que je me disais, les choses vont s'améliorer parce qu'on va travailler fucking fort pour... Je sais même pas si on se donne le droit de
s'agir. Ben oui!
On va travailler fucking fort pour que les choses changent. Moi, c'est ma vision.
Oh,
c'est comme, l'avenir va être meilleur parce qu'on va consciemment travailler à le rendre meilleur. Puis toi, t'es comme, t'avais une espèce de foi, un espoir que les choses allaient s'arranger.
Ah oui, puis je veux dire, il y a un peu de... On va sûrement en reparler pendant l'épisode, mais Marc-Claude m'a aussi amené ça, là, le fait de ne pas lâcher le morceau. Parce que Marc-Claude, quand elle tient quelque chose entre ses dents, elle ne lâche pas.
Non. avant qu'on embarque dans notre rencontre, le titre de l'épisode juste mentionné, à la fin de l'épisode solo, j'ai dit que le titre allait être « Ce qu'on ne règle pas, on le lègue », qui finalement évoque toutes nos réalisations sur le fait que ce qu'on donne en héritage à nos enfants, en fait, puis ce qu'on a hérité nous-mêmes, puis ce qu'on s'enligne notre génération à léguer à des enfants, à nos enfants, c'est un style de vie d'immobilité. Puis qu'il y a des façons concrètes de renverser la vapeur puis de léguer un style de vie sain, vivace, en mouvement et tout et tout. Ceci dit, j'ai changé d'idée pour différentes raisons parce que cette idée-là de l'héritage, ça, c'est tellement important que ça va être le sujet même d'un atelier qu'on va faire exclusivement là-dessus. Ça va être un atelier gratuit. On va vous donner plus de détails. Puis moi, je me mettais en mode enseignement, puis là, j'avais des slides dans ma tête, puis je voulais faire des PowerPoints, puis parler super vite pour tout expliquer.
Bref, j'aurais pas parlé tout l'épisode, non, ça avait été ça.
Fait que là, je me suis dit, je vais être moins dans la tête, on va être plus dans le cœur aujourd'hui. Puis en préparant le storyline, ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que il y a une autre citation qui a émergé, qui est une de mes citations préférées au monde. C'est une citation de Camus qui est « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. » Et finalement, je pense que ça évoque la quête de beaucoup de personnes qu'il y a des creux quand on souffre, puis il y a des moments où on ne voit plus la lumière au bout du tunnel, puis on n'y croit plus.
Ouais.
Puis je pense que jusqu'à tout récemment, moi-même, j'étais là-dedans, puis j'avais de la misère à parler de mon anxiété ou des choses qu'on vivait ensemble parce que il y avait tellement de noirceur. Je me disais, je veux pas juste amener ça dans le monde. T'sais, j'étais trop dedans. Puis maintenant qu'on sort du mode survie, avec Marco, tu sais, avec Marco, ça a été tellement intense, puis c'est une rencontre de parents. Je pense qu'on sent qu'on sort du mode survie, puis il y a des éclaircies. Puis on
fallait comme un peu taper le fond du baril pour voir la lumière. Puis, fait que cette citation-là.
C'est un peu ce périple-là qu'on va parler aujourd'hui, puis ça, je vais lider un peu les questions pour faire ressortir ton histoire.
Je vais me faire interviewer.
C'est une interrogation.
C'est bien ça. J'ai amené mon CV.
Fait que, notre rencontre.
Ooh.
En fait, on est des enfants de la banlieue. On est les deux grandis à Laval, genre à 10 minutes.
On habitait à 10 minutes de char l'un de l'autre.
Mais on s'est pas connus.
Non.
Avant une couple d'années, par un ami commun. Qu'est-ce que tu te rappelles de notre rencontre?
C'était sur Skype.
D'habitude, on dit que c'était à Banff, ça peut plus
remonter. Mais... ben, rencontre en personne, c'était à Banff. Moi, dans le fond, un ami en commun, Julien, que moi, j'avais rencontré quand je travaillais chez Lozo, un magasin photo à Montréal, que toi, tu avais rencontré en tant que cliente, qui voulait apprendre à faire un petit peu de la photo de paysage urbain, si je me souviens bien.
Photo de rue.
Photo de rue. Puis, tu y avais expliqué par la suite que tu cherchais quelqu'un pour faire un genre de photo. Puis, lui, t'avait mis en contact avec moi parce que je faisais ce genre de photos-là. Puis, on a commencé à se parler par Skype.
C'était quoi le genre de photo? On dirait que c'est mystérieux, mais...
Ben, moi, j'aimais beaucoup faire de la photo de rue à l'époque. C'est comme ça que... La photo a été le premier outil que j'ai utilisé pour créer, en fait. Un premier outlet créatif. Puis, je faisais de la photo de rue. Puis, à un certain moment, je trouvais ça un peu dull de, tu sais, juste me promener dans les rues pour faire des photos. Fait que j'avais commencé à faire de la photo de famille, mais de style photo de rue. Fait que ce que je faisais, c'est que j'allais dans les familles avec des enfants et comme des jeunes familles, disons. Puis je passais un moment avec eux. Ça pouvait être un avant-midi, une journée ou un moment quelconque. Puis après, moi, je faisais des photos de leur quotidien, en fait. Fait qu'on n'essayait pas de stager quelque chose de fantastique comme on danse sous les arbres de l'automne. Mais comme c'était vraiment juste le quotidien. Puis j'essayais d'amener... De photographier avec la lumière qui était là, les angles que je pouvais avoir accès et tout. Fait que ça faisait un style vraiment photo de rue, mais à l'intérieur d'une maison puis du quotidien des gens. Puis je trouvais ça vraiment cool de faire ça, mais c'était difficile d'expliquer ça aux gens parce que c'était comme personne d'autre faisait ça vraiment. Souvent, je montrais des photos, puis là, ça cliquait un peu plus. Mais c'est le genre de photos que je faisais à ce moment-là.
Moi, ce que je me rappelle, c'est que tu avais aussi un... Tu voulais donner l'appareil à l'enfant.
Oui.
Puis capter son quotidien de ses yeux à lui.
Ouais, ben le projet s'appelait Capsule. Puis c'était justement pour encapsuler un moment de la vie quotidienne Puis je me disais aussi, je suis jamais allé au bout de cette idée-là, mais que ça serait intéressant de capturer le point de vue de l'enfant. Fait que laisser une caméra, laisser prendre des photos de ses jouets, de même de l'angle de l'enfant, tu sais, comme qui est souvent plus bas. Puis encapsuler ça un peu, comme virtuellement, pour que l'enfant puisse réaccéder à ça quand il grandit ou plus tard dans sa vie, puis voir ça, tu sais. Puis je me disais même, ce serait cool de le faire partout dans le monde, tu sais, de comme plein de contextes, plein de cultures différentes, plein d'enfants différents, puis de comparer, pas comparer, mais comme de voir un peu les différences entre comme ces points de vue-là, à travers le monde. Les points de vue de l'enfance à travers le monde, comme j'ai trouvé ça intéressant à faire. Mais en tout cas, c'est pas arrivé encore.
Mais?
On sait jamais.
Hey, moi, ça me travaille.
Moi, je let go, hein. J'ai beaucoup de lâcher prise. Fait que ça...
Moi, je suis comme, on va le faire. Mais moi, à ce moment-là, quand on s'est rencontrés, je travaillais sur Renard. Dans le fond, j'avais quitté HEC pour fonder mon entreprise. C'est Vivace, en fait, mais qui s'appelait Renard à ce moment-là. Puis, j'étais vraiment un peu obsédée sur comment créer un nouvel imaginaire autour de l'activité physique, de la vie quotidienne, aussi notre représentation. Je questionnais autant la représentation aussi des enfants, des adultes. Puis, je voulais des images qui n'étaient pas du photostock, puis qui n'étaient pas des photos de famille stagées devant un écran. C'est ce que j'avais expliqué à notre ami, notre ami Julien. Puis moi, c'était un style qui résonnait beaucoup avec moi parce que c'est le style de documentation, autant photo et vidéo, que mon père faisait quand nous, on était enfants. Puis son style, c'était « je me plante avec une caméra, puis je vous filme, puis si vous venez me voir pour me poser des questions, je vous réponds même pas.
Ouais, » c'était comme une statue. Puis...
le photographe s'effaçait, puis moi, j'avais vu comment dans les images qu'on a gardées de notre enfance, il y a une espèce de naturel, tu sais, que... Il n'essayait pas de faire des scènes, c'est comme ça, encore une fois, de stager des choses, mais de juste s'effacer parce qu'à un moment donné, on oublie que la caméra est présente puis le naturel revient.
Ouais.
Fait que quand Vince m'avait expliqué ça, moi, ça m'avait quand même pas mal charmé parce que...
Charmé.
Parce que, tu sais, je pense vraiment qu'au-delà des compétences techniques, l'acte créatif aussi, c'est d'émettre un regard sur le monde. D'avoir un peu quelque chose à dire, puis l'idée que c'est le point de vue de l'enfant qui est valorisé, puis que l'enfant va documenter des choses différemment de ce que nous, on interpréterait de son quotidien.
Puis de façon souvent plus authentique.
Ouais.
Un enfant va dire les choses ou va remarquer les choses de façon plus authentique sans le layer d'adulte qui, comment dire, qui analyse beaucoup plus.
C'est ça. Puis là, finalement, on a parlé... Ça a été le point de départ. Puis là, finalement, on a parlé des heures et des heures sur Skype. Parce que tu étais à Banff à ce moment-là. On n'a pas mentionné pourquoi, en fait, on se parlait sur Skype. C'est parce que tu étais à Banff
à ce moment-là. Oui, j'habitais à Banff. Je travaillais dans un magasin photo là-bas. Ça faisait quelques mois que j'étais là-bas. Presque un an, je pense, quand on s'est rencontrés. Puis je me cherchais des projets à ce moment-là.
Quand tu t'es ramassé à Banff?
Je me suis ramassé à Banff. Dans le fond... Là, je ne sais pas à quel point je recule dans le temps, parce que c'est quand même une très longue histoire.
T'as besoin de parler de ta naissance.
Mais... ben, où tu veux que je commence l'histoire, parce que tu la connais.
Oui. Mais dans le fond, ben, tu es ingénieur logiciel, si on ne l'a pas dit.
J'ai une formation en ingénierie logicielle que j'ai faite à Polytechnique Montréal. Puis ça, c'est j'ai un peu dérivé là-dedans, comme on disait tantôt. J'étais bon à l'école, sans trop étudier. Puis je me suis rendu jusqu'à l'ingénierie. Logiciel à la Polytechnique. Puis après ça, j'ai travaillé 2 ans dans une compagnie à Montréal qui s'appelle G-Soft, puis en gestion de projet. Puis après ça, ben, je me cherchais un peu. Puis c'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a eu la prise de conscience de ben, tu sais, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que j'aime ce que je fais en ce moment? Qu'est-ce que je veux faire réellement dans la vie? Je suis qui? C'est toutes ces questions-là qui sont arrivées. Puis ça m'a amené à cofonder un organisme à but non lucratif avec un ami. Puis ce qu'on faisait avec deux amis.
Attends, on va juste prendre pour l'heure.
OK.
Parce qu'il y a un des moyens de l'histoire aussi qui est intéressant, c'est après tes années d'université, il y a eu un flip dans ta vie où tu étais vraiment pas en santé, puis à un moment donné, tu t'es dit, il y a quelque chose que là, je veux que je change. Fait que ça, c'est genre, quand on préparait l'épisode, j'essayais de comprendre aussi qu'est-ce qui s'était passé dans ta tête.
Ouais.
À ce moment-là, tu sais que...
On a parlé un peu... avant l'épisode, mais tu sais, je me souviens pas d'un moment vraiment marquant où ce que j'ai cassé. C'était plus genre, sûrement plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans, qui sont allés à l'université. Moi, je m'impliquais beaucoup. À l'université, j'étais président de whatever, de plein de choses. Puis, j'étais vraiment, ça a vraiment eu un coup sur ma santé physique. Parce que, tu sais, je me couchais tard, je mangeais pas bien, je mangeais vite sur le coin d'une table tout le temps. Je bougeais pas beaucoup. Fait j'ai fini mon université vraiment mal en point physiquement. Tu sais, j'avais pris beaucoup de poids, puis c'est ça. J'avais pris un coup de vieux, mettons. Puis je m'étais tout le temps dit, ben là, je vais vivre ça comme ça parce que c'est comme ça en ce moment, mais quand je vais finir mon université, je vais m'inscrire à un gym, je vais mieux manger. Nanana. Fait qu'une fois que j'allais être seté dans un 9 à 5, disons, je me disais que j'allais commencer à adresser plus ça. Mm. Ouais. Puis c'était latent, là, toute la fin de mon bac, je me disais comme, ah, tu sais, je me regardais, j'étais comme, je suis pas en shape, là. je m'aimais pas comme ça. Mais je me disais, bah, quand je vais finir l'université, je vais régler ça. Puis comme de fait, quand j'ai fini l'université, quand j'ai eu mon emploi, ben là, je me suis inscrit à un gym. Mais dans le paradigme, si on veut, conventionnel de l'activité physique, là, pas nécessairement à la vivace, mais c'est ça, inscrit au gym, essayer de manger mieux, puis des choses comme ça. Mm.
Ouais. C'est intéressant parce que pendant longtemps, je pense qu'on se demandait notre histoire, c'est qu'est-ce qui est intéressant, tu sais, parce que soit dans le monde de l'activité physique, c'est des anciens athlètes olympiques qui vont dire oh, c'est important de bouger.
Ouais.
Ou c'est des gens qui ont vécu genre des traumas, des fois physiques, puis des guérisons exceptionnelles. Puis nous, on est comme, bon, on vient de Laval.
On n'est pas des athlètes, on n'a pas de blessures graves.
Non, c'est ça, tu sais. Puis il n'y a rien de grandiose. Puis là, on a réalisé finalement qu'est-ce qui était. Que notre histoire, ça représente juste en fait la banalité de notre histoire. Et pas qui est spéciale, mais que. Il y a tellement de monde qui vivent ça, en fait, que c'est ça le maillon qu'il faut adresser. Tu sais, c'est que notre histoire a l'air bien ordinaire, mais c'est un peu la situation de beaucoup de personnes que tu vis le train-train du quotidien, puis tu as l'impression un peu de t'encrasser à la longue, puis tu es comme « il me semble qu'il faut que je fasse de quoi », puis tu essaies des affaires, puis ça marche à moitié, puis tu es dans une espèce de zone grisâtre bizarre, puis finalement, c'était juste ça qu'on avait vécu, puis on s'est dit « hey, le fait qu'on est ordinaire, finalement,
c'est super.
On peut juste en parler.
Oui, on peut juste parler de ça parce que, tu sais, il y a peut-être que les personnes qui écoutent en ce moment, peut-être que vous avez un parcours semblable, c'est-à-dire comme ben normal, académique, puis là, un moment donné, on se retourne, puis on est comme, waouh, vraiment, je suis pas dans la santé, soit spirituellement, mentalement ou comme physiquement, qu'il y a de quoi qui cloche, tu sais. Il y a de quoi qui cloche. Puis c'est. On a comme. Le point d'entrée était différent pour moi puis pour toi, mais tu sais, ça nous a menés au même endroit. Cette quête-là de comme qu'est-ce qui cloche puis comment on peut l'adresser, tu sais. Ouais. C'est quoi la source du truc qui cloche? Ouais.
Finalement, c'est ça. On avait l'impression qu'il n'y avait rien de notable. Fait que moi, j'avais internalisé que ça venait de moi, que c'était moi le problème qui était brisé puis je devais me régler, me guérir.
Ouais.
Mais finalement, c'est tough de nommer le problème parce que finalement, le problème, c'est le style de vie. Tu sais, le fait qu'on... Être pas bien, c'est rendu normal. Genre.
C'est banalisé.
Il y a une espèce de oh my God, il y a une expression, je sais pas d'où elle vient, mais c'est qu'il y a tellement de gens qui vivent une vie de quiet despair que c'est, tu sais, l'amplitude émotive, c'est juste une espèce de vibration basse. Comme, mais être pas vivant. C'est ça, t'as fait, c'est comme si c'est l'inverse.
Ouais, ouais.
C'est là qu'il y a une différence entre genre, vivre, traverser ces journées.
On survivait comme dans notre vie, mais.
Vivre, là.
Ouais, d'être vivace.
Ouais. D'accord. Fait que cette époque-là, il y a quelque chose qui t'a fait changer.
Ouais, ben ça m'a amené à. Déjà là, tu sais, quand on commence à plus être actif physiquement, on commence à mieux manger, ben là, ça donne. Il y a comme un cercle vertueux qui se crée, tu sais. Puis on commence à se poser d'autres questions aussi, plus par rapport au travail ou. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis au moment où bon, j'étais vraiment plus en santé, je me sentais bien dans mon corps et tout, ben là, il y a venu des questions sur ben, qu'est-ce que je veux faire? T'sais, parce que est-ce que je suis heureux en ce moment? J'aimais l'équipe dans laquelle je travaillais, j'avais un bon employeur, ça allait bien, mais j'ai comme réalisé à ce moment-là que j'avais dérivé jusqu'à faire ça, que j'avais jamais vraiment pris une décision réfléchie peut-être sur mon parcours, puis vu que je suis pas anxieux, puis je l'ai gauche dans le moment présent, ben, tu sais, j'avais jamais vraiment réfléchi à la destination, un peu, de ma vie, tu sais. Puis c'est là que ces questions-là ont commencé à plus me tracasser. Tu sais, une fois que le physique était comme, OK, là, je me sens bien dans ma peau, mais tu sais, financièrement, j'étais bien, physiquement, j'étais bien. Puis là, il restait ça qui était latent un peu. Là, OK, mais je m'en vais. Je m'en vais où, tu sais, en ce moment? T'sais? Qu'est-ce que je fais de mon temps? Pourquoi je fais ça? Fait que c'est là qu'il y a eu une grosse prise de conscience. Puis c'est là que, comme je disais tantôt, j'ai cofondé un organisme non lucratif avec deux amis. Ça a été le début d'une belle aventure. Dans le fond, ça s'appelait, parce que c'est fermé maintenant, mais ça s'appelait Shoot to Help. Puis ce qu'on faisait, c'est qu'on allait visiter d'autres organismes non lucratifs. Puis on leur fournissait du matériel, photos, vidéos. Fait qu'on filmait, on prenait des photos pour montrer leur impact, ce qu'ils faisaient, parce que c'est quelque chose qui était manquant chez plusieurs organismes non lucratifs. Il y avait pas, c'était assez opaque, tu ne voyais pas vraiment concrètement ce qu'ils faisaient. Donc, on a décidé de faire ça, puis on leur donnait souvent des formations aussi sur comment le faire eux-mêmes, pour pas juste qu'ils dépendent de nous. Puis, on l'a fait à Montréal, mais après ça, assez rapidement, on s'est organisé pour faire une mission plus humanitaire. Puis on est allé en Asie. On a fait Inde, Népal, Myanmar, puis j'en oublie sûrement. Mais c'était une mission d'à peu près 5-6 mois. Puis, on a aidé environ 30 organismes non lucratifs, si je me souviens bien, dans ces pays-là, avant de revenir. Mm. Ouais.
Puis quand t'es revenu, t'avais pas une scène, t'étais dans le sol.
Complètement cassé. Pas d'emploi. Dans le fond, parce qu'on avait fait du sociofinancement pour financer la mission. Mais quand on est revenu, ben, on n'avait plus, une scène. Sinon, on aurait continué. Mais, c'est ça. Fait que je suis revenu. Pas d'argent, pas de job. J'étais allé habiter chez mes parents pendant quelques mois, si je me souviens bien. Dans leur sous-sol. Faut pas romantique. Mais c'est ça, j'habitais dans le sous-sol de mes parents. Puis j'en ai profité pour continuer d'apprendre sur la photo, en fait. Puis sur l'édition de photos, fait que Photoshop. Des outils comme ça pour me peaufiner. Puis j'ai commencé à faire des contrats aussi. Puis c'est là que Capsule est arrivée, si je me souviens bien. Ouais.
Mm. Puis t'as appliqué après chez Lozo.
Ouais, ben, tu sais, Capsule couvrait pas. Mes projets photo couvraient pas. Mais mon style de vie, c'était le seul chez mes parents. Fait que j'ai décidé d'appliquer chez Lozo, Montréal, qui est fermé maintenant. Mais qu'à ce moment-là, c'était comme le plus gros magasin de photos au Canada, je pense. Là, c'était assez gigantesque. Sur Saint-Hubert. Puis, j'ai travaillé là pendant presque un an. Puis, avec cet emploi-là qui est arrivé, j'ai aussi déménagé en appart avec des amis à ce moment-là. Fait que c'est ça. Pendant un an à peu près, j'étais chez Lozo. Mais à la fin de cette année-là, je me cherchais encore un peu parce que, bon, je sentais que j'étais allé au bout de cette expérience-là. Puis, je voulais continuer d'avancer. Fait que avec des amis, on avait appliqué à Banff dans un magasin photo. Moi, il m'avait recontacté, m'avait passé en entrevue, puis j'avais commencé à travailler là-bas. Fait que j'avais emménagé à Banff, en Alberta.
Puis... Attends. Juste revenir sur ton expérience, tu sais, ce que je viens de que t'expliques comme chez Lozo, c'est que je pense que, tu sais, moi, je te connais bien là-bas, toutes les années, puis je sais que tu as une capacité d'apprentissage assez phénoménale, puis c'est comme si tu étais comme immersé dans le monde de la photo, un peu comme tu l'as été dans le monde quand tu étais ingénieur.
Ouais.
Puis c'est comme si, à partir du moment où tu as atteint un certain confort au niveau technique, la question de revenir un peu aussi de « OK, mais pourquoi je fais les choses? »
Je veux-tu comme vendre des caméras? Puis ça, il y a plusieurs employés chez Lozo qui se posaient la question. Tu sais, je veux-tu vivre de vendre des outils pour faire la photo ou je veux vivre de créer, tu sais? Puis c'est ce qui a amené un certain roulement aussi chez Lozo, là, parce que tu as des employés qui se connaissaient en photo, qui étaient créatifs, mais qu'ils vivaient pas de leur art, mettons. Fait qu'ils commençaient à travailler là, mais à un certain point, t'es comme, me semble que je mets beaucoup d'heures, tu sais, sur Lozo pour aider des gens à créer, mais tu sais, est-ce que je vais passer plus de temps à créer moi-même?
Quelle grande question.
Puis, tu sais, je l'ai pas résolu avec Banff parce que je suis juste allé dans un autre magasin de photos.
Juste
mais,
plus.
Mais il y avait beaucoup de... Tu sais, comme, ouais. Le magasin était plus petit, puis il y avait... Je touchais à beaucoup plus de choses, fait que ça, c'était quand même stimulant. C'était 100% en anglais, fait que ça a été une grosse immersion en anglais aussi de pratiquement un an. C'était dans une autre province. Fait que, tu sais, il y avait plusieurs challenges, je pense, qui m'allumaient. sans nécessairement sortir de ce métier-là, si on veut.
Mm-hmm.
Ouais.
Puis c'est quand tu étais là que nous, on a pris contact.
Ouais.
Puis après, genre, c'est pas plusieurs, quelques semaines à se parler comme des mm-hmm. heures par jour.
Mm-hmm.
J'ai dit, j'achète un billet d'avion, puis je viens te voir.
Ouais, j'arrive.
Je voulais vraiment te poser la question, sincèrement, là, qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là? Tu te rappelles-tu de ta réaction quand je t'ai dit, maman?
Ben, je t'ai trouvé game, quand même, parce que c'est quand même un 5 heures de vol au bout du pays. Là. C'était pas. Tu voulais, là. Mais, je veux dire, on avait eu des super belles discussions, on s'entendait super bien, on partageait, on avait des valeurs communes et tout. Fait que, tu sais, j'étais pas genre, oh non, elle est crazy, puis elle s'en vient. Ouais. C'est une folle. Mais, je t'ai trouvé game, tu sais. Ouais. Puis, je suis pas, encore une fois, en étant pas tant anxieux, je me suis pas mis à stresser parce que là, cette fille-là s'en venait, puis ça allait comme, ah, mais. Mm. J'étais genre, ah, ben, tu sais, on va passer tout ensemble, ça va être cool.
Ouais.
Ouais.
Puis là, même si ton contrat se finissait. Je passe au printemps suivant, puis tu planifies acheter une van, puis traverser le Canada ou faire un road trip en Amérique du Nord. Je sais pas, c'était quoi,
j'allais revenir, ouais. J'avais déjà réservé une van, si okay. Je me suis mis à ce moment-là, une amie qui en avait une là-bas. Puis mon plan, c'était d'apprendre puis de revenir à Montréal avec.
Finalement, ouais. C'est pas ça qui s'est passé, parce que moi, entre-temps, j'avais vu passer une offre d'emploi pour Participation, qui est le plus grand promoteur de l'activité physique au Canada. Puis pour le 150e du Canada, ils faisaient leur plus grosse tournée pan-canadienne ever. Puis ils cherchaient des ambassadeurs pour faire des activités dans différents événements. Et je m'étais dit, aïe, on va traverser le pays. On va être payé pour traverser le pays pour apprendre sur la santé.
Ouais.
Fait que j'avais dit à Vince, t'es-tu game d'appliquer?
Ouais.
Puis on avait appliqué en couple.
Ouais.
Parce qu'on se disait, on veut vraiment pas être séparés. On s'était dit, c'est un ou l'autre, là.
Ouais, on le fait ensemble, tu sais, ouais.
Fait que nous, c'était, on s'était présenté comme étant, vous nous prenez en duo ou pas. Puis c'était comme un peu un gamble. Mais finalement, on a mis de l'avant que tu avais des bonnes capacités de communication puis qu'on pouvait aider à diffuser le message aussi pendant la
journée. Ouais, j'avais proposé d'être comme le photographe de cette tournée-là là, qu'on allait faire. Fait que, ouais.
Puis on a appliqué, on a eu la job. Puis dans le fond, là, c'est une histoire de 2 mois après notre rencontre. On se ramassait dans un contrat d'un an.
Ouais.
À être ensemble 24 heures sur 24.
Mm-hmm. Ouais, parce que là, nous, on s'était présentés en couple. Fait qu'eux s'étaient dit, ah, ben, ils vont pouvoir dormir dans la même chambre.
Oui, parce que on était 6. C'était des équipes de 2. Puis normalement, ils prenaient pas. Ils mettaient pas un gars puis une fille ensemble. Mais nous, on était en couple. Fait qu'ils nous avaient mis ensemble. Non, c'est
fait que je pense que, tu sais, nous, on couvrait l'est du pays. Il y a une équipe qui couvrait l'ouest. Puis l'équipe de l'ouest, je pense qu'il y avait plus de gars que de filles.
Ah, justement.
À cause de ça. Puis nous, c'était moitié-moitié. Fait qu'eux trouvaient ça le fun. Tu sais, c'était comme autant de gars que de filles dans notre équipe. Puis c'est ça. On partageait une chambre d'hôtel avec 2 lits, mais on partageait une chambre d'hôtel quand même. Fait qu'on était 100% tout ensemble.
Ouais. Mais après, genre, une semaine, je pense que c'était clair qu'on n'allait pas être vraiment un couple, finalement.
Ouais.
À ce moment-là, puis ça va avoir pris 1 an et demi d'amitié puis de rebondissement. Parce que les deux, on était dans un pattern plus d'évitement.
Ouais.
Fait que, t'es comme, pour toi, ça allait trop vite, fait que tu t'es un peu refermé, puis moi, j'avais fait, OK, ben.
Ben, tu sais, imagine que vous rencontrez quelqu'un en ligne, et après 2 mois, vous êtes avec. C'est allé vraiment, vraiment vite.
Puis, ben, c'est ça. Puis, quand t'es tout le temps avec quelqu'un, ben, tu découvres des facettes de la personne. Oui. Mais en même temps, la bénédiction, c'était qu'on était tout le temps ensemble puis qu'on a dû adresser.
Bon, on n'avait pas le choix. On ne pouvait pas juste tourner la page. Là, qui est chose que notre génération, peut-être, a tendance à faire, de dire qu'il y en a d'autres. Puis,
tourne la page, je pense à autre chose.
Mais là, on pouvait, comme pas. Il fallait passer un an ensemble.
Ouais.
Peu importe. Puis, de continuer à surmonter des défis en travaillant ensemble.
Mm-hmm.
Puis d'apprendre à se connaître en jasant tout le temps. Là, parce qu'on était tout le temps ensemble.
Fait que la job était vraiment, vraiment hot. Là, pour vrai, on allait dans des événements de différentes envergures. On était au centre-ville de Toronto, plein centre-ville, des milliers de personnes. On avait. Où on allait dans des petits événements communautaires.
Ouais.
On avait des stations avec des jeux. Fait que, mettons, tu pouvais slapper des pucks d'hockey, tu pouvais lancer un ballon de foot dans une cible. Il y avait le tennis en chaise roulante, des activités comme ça. Puis, on était tout le temps dehors. Fait que pendant un an, on travaillait tout le temps dehors.
Il va arrêter tout le temps dehors.
Dans nos temps libres, on s'entraînait. Puis, Moi puis Vince, on faisait à cette époque-là, puis encore aujourd'hui, on faisait juste écouter des podcasts puis lire des livres.
Sur la santé.
Sur la santé, sur ouais. le bien-être, puis alimentation, sommeil, toutes les dimensions, là, on faisait mm-hmm. juste ça. Puis je pense que ça nous a vraiment conscientisé sur le fonctionnement d'un grand organisme mm-hmm. de promotion des saines habitudes de vie. On a rencontré des milliers de Canadiens.
Ouais, on a. Ouais. C'est ça. On a parlé directement à des milliers d'humains à travers le Canada. Ouais. Ouais.
Surtout moi, j'étais pas capable de juste dire voici une balle de tennis, frappe-la. Je me mettais souvent à jaser avec le monde. Ouais, ouais. Racontais des récits.
Marc-Claude revenait tout le temps avec des histoires. Puis ouais. Des, ouais. Elle avait un podcast à ce moment-là.
Non, c'est pas... ouais, c'est ça.
Ça ressemblait à ça. Que...
mais aussi, je pense que là, ce qui a été fondateur aussi, c'est qu'on vivait dans une valise.
Ouais.
Puis on était hébergés, puis c'était tout le temps une chambre d'hôtel. Puis, tu sais, finalement, moi, puis Vince, vu qu'on était pas ensemble, ben, on avait chacun notre lit, c'était rendu ça, notre mm-hmm. espace. Puis on faisait comme on cuisinait dans la chambre à l'hôtel. Et,
ouais.
Puis je pense que ça nous a amené beaucoup, beaucoup de résilience, en fait.
Mm-hmm.
Une de nos réalisations, c'est que, parce que des fois, on revenait à la maison, puis ma valise, genre, rapetissait à chaque fois.
Ouais.
Parce que quand t'es nomade, tu veux te traîner le moins possible. Tu sais, le nombre de fois qu'on rangeait nos bagages, qu'on les ressortait.
Mm-hmm.
Fait que moi, puis Vince, notre approche, c'était de dire on va se débarrasser de plein d'affaires. On va essayer d'avoir comme une valise de linge, une valise pour mm-hmm. nos trucs de bouffe, puis d'attitude pour être vraiment efficace. Puis je pense qu'une des grosses réalisations que je retiens de cette époque-là, c'était de dire on peut vraiment vivre avec pas grand-chose.
Ouais, ça prend pas grand-chose.
Puis ça nous a fait réaliser qu'on est revenu aussi après dans la vie normale, en guillemets, que je suis revenue à mon appart, qui est un 4,5 bien classique à Montréal. J'avais l'impression qu'il était gigantesque.
Ouais.
Gigantesque.
Plein d'affaires là-dedans.
Ouais. Puis ça avait vraiment mis dans ma tête, ah, OK, quand on devient sédentaire, on commence à accumuler des choses.
Mm-hmm.
Puis je pense que ça apporte du confort, nécessairement. Mais je pense qu'on réalise pas des fois comment ça apporte aussi un poids sur ouais. notre conscience, puis ça peut brimer notre liberté.
Ces choses-là sont présentes physiquement, mais comme spirituellement aussi, là, comme on traîne toutes ces affaires avec
ouais.
nous.
Oui, oui. Puis plus d'affaires on a, on devient de plus en plus inquiet de les perdre. Fait que quand t'as pas mm-hmm. grand-chose, t'as vraiment l'esprit tranquille.
Bon.
Fait que par après, tu sais, quand on arrive dans un appartement, pour moi, c'était plus petit, nécessairement. Mm-hmm. Moi, ça me convenait. En tout cas. Puis là, au retour, ben après participation, ton rêve de partir en road trip dans une van est revenu.
Ouais.
Toi, t'allais reprendre vivre ta route de liberté.
Le bohème nomade. Ouais, qui s'engageait à rien.
Finalement, ouais. Le running gag, c'est que sa van qu'il a acheté, il l'a parqué au Parc Laurier, puis on était tout le temps ensemble.
Ouais.
Jamais parti.
Jamais vraiment parti. Dans le fond, à la fin de la tournée, j'ai une amie d'une amie qui vendait sa van, qui était déjà toute setupée pour du van life, qui avait déjà un lit dedans et tout. Fait moi, je l'avais acheté à ce moment-là. Puis, tu sais, je savais qu'au retour de la tournée, Marc-Claude, elle avait un appart. Moi, j'avais rien, tu sais. Parce que je partais de Banff. Ça faisait des années que je vivais dans ma valise, tu sais. Mm. Fait que, c'est ça, j'ai décidé d'acheter cette van-là. Puis, je me suis dit, je vais vivre dedans, tu sais. Je m'étais pris un abonnement à un gym, puis je prenais ma douche là, puis c'est ça. Tu sais, ouais. Je vivais dans ma petite van. Puis, mon plan, c'était de me promener. Mais j'avais pas tant d'argent. Fait que, tu sais, je pouvais pas juste dépenser plein d'argent en gaz. J'avais pas d'emploi à ce moment-là. Parce qu'on revenait de la tournée, puis je revenais de Banff, puis en tout cas, fait que. Puis il y avait Marc-Claude. Fait que finalement, c'est ça. Je me suis parqué à côté du Parc Laurier une bonne partie de ce moment-là jusqu'à temps qu'on décide
ouais.
de se fréquenter.
Ouais.
Ouais.
Puis tu sais, je pense pour que le low point, le fond du baril, là, c'est quand on a commencé à sortir ensemble finalement parce qu'on passait. En tournée, on était tout ensemble, on prenait des longues marches pour aller trouver des bonnes épiceries mm-hmm. ici, dans peu importe la ville où on était. Puis on a comme répliqué ça à Montréal finalement. Ouais. Et on marchait beaucoup, on parlait chacun de nos projets. Puis je pense que le low point, on venait de commencer à sortir ensemble. Moi, j'ai attrapé la mononucléose à ouais. genre 28 ans. J'avais 28, 30 ans. En tout cas, toi, tu revenais de voyage. Il avait fallu que j'aille te chercher avec ta van, que les breaks ont lâché à ce moment-là.
Ouais,
les
breaks? J'avais plus de breaks.
Là, tu reviens de voyage. Il fallait aller gazer. Puis t'es comme, Marc-Claude, j'ai pas une scène. Puis là, je sors un 20$. Puis je te donne
ouais.
de l'argent pour aller gazer. Puis pour vrai, j'étais pas tant tracassée, honnêtement, parce que ce que j'appréciais de toi, c'est que ton sentiment de sécurité était basé sur résilience et ta débrouillardise et non pas sur le fait de posséder beaucoup de choses.
Mm-hmm.
T'étais...
Mais je me rappelle de cette soirée-là, après ça, tu sais, moi, je suis allé me parquer quelque part, là, je me souviens même plus où. Puis là, j'étais couché dans mon lit, dans ma van. J'avais pas d'argent dans mon compte de banque. J'avais plus de break sur mon char. J'étais couché sur le dos. Ma blonde avait la mono. Puis je pense que j'étais sur le chômage. J'ai été pendant quelques mois à ce moment-là. Puis j'attendais un chèque. C'était comme, j'avais rien. J'étais comme, qu'est-ce que je vais faire demain? Tu sais?
Ouais. Mais je pense que... Puis à tellement de moments, je me disais, oh, pourquoi je me trouve pas un mari riche qui va...
Ouais.
Qui va effacer tout. Sugar Daddy. Les...
Elle s'est trouvée un bum cassé.
mais pour vrai, tu sais, tu parles de ces années-là comme si tu étais à la dérive, mais vu que tu étais vraiment ancrée dans le moment présent, moi, tu m'amenais un sentiment de sécurité finalement, qui était encore plus grand que si j'avais rencontré quelqu'un qui avait des millions, parce que je me disais, avec Vin, j'ai l'impression que justement, si j'allais tout perdre, Ta perception de ma valeur n'allait pas changer. Genre.
Mm-hmm.
Tu définissais pas ta valeur sur ton...
Mon statut ou ce que j'avais ou ces affaires-là, non?
Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui nous a quand même connectés.
Mm-hmm.
Puis moi qui des fois, générait de l'anxiété parce que notre seuil de confort n'est pas pantoute le même. Là, puis clairement, il y a des moments où j'aurais mieux avoir des gros chèques, mais tu sais... J'essayais moi-même de me rappeler que si je fixais mon bonheur sur quelque chose d'externe, que j'étais vouée à pas être heureuse puis qu'il fallait que je me ressente sur moi-même. Moi, ça m'a pris des années à arriver là, mais toi, on dirait que ça... C'était plus ancré. T'étais pas tourmentée.
Non.
T'associais pas ta valeur personnelle à ce que tu possédais. C'était quand même assez intéressant.
Non, ouais.
C'est fou comment le ton de la discussion est différent de mon épisode solo parce que...
Ouais. C'est plus ricanant.
Mais je pense que c'est ce que tu m'apportes. Tu penses que tes super pouvoirs, c'est d'amener quand même...
Un peu d'humour pour ceux qui suivent nos stories sur Instagram.
Ouais. Ouais, t'es bon pour désamorcer beaucoup de situations, puis ta présence calme mon système nerveux en général. Bref. Fait que t'étais complètement cassé. Tes parents devaient se demander quand est-ce que t'allais revenir sur le droit chemin.
Sur le droit chemin, parce que mon chemin était croche.
Puis,
ben, tu sais, on en parle des fois. Ouais, on en a parlé ce matin, mais tu sais, il y a un moment dans ma vie où ben c'est après Shoot to Help, après que j'ai comme corrigé le tir un peu dans ma vie, je me souviens d'avoir vu un ami de la famille, puis il m'avait dit, hey, faudrait qu'on s'en parle, tu sais, j'ai toujours voulu faire ça, ce genre d'affaires-là, de partir, faire du backpack, whatever, mais j'ai jamais osé le faire. Puis cette personne-là approchait quand même de la retraite, tu sais. Puis ça m'avait marqué, parce que je me suis dit, ben, comment je veux vivre ma vie, tu sais, je veux-tu arriver à la retraite et dire voici la liste de toutes les choses que j'aurais aimé faire, mais que j'ai pas faites. Puis là, ça devient comme quelque chose de lointain que je pourrais pas vraiment. Ou tu sais, je veux commencer à vivre ma vie comme je veux. Tu sais, si j'essaie d'éliminer toutes les choses que je me dis, ah, j'ai envie de faire ça, tous les regrets, dans le fond, tu sais. Puis pour moi, à partir de ce moment-là, quand je me dis, ok, ben, tu sais, les belles choses puis les moins belles choses que je vais vivre, ben ça va être des choses que je vais me dire plus tard, j'ai vécu ça. Puis, tu sais, les regrets sont un peu disparus à ce moment-là, dans le sens où, tu sais, quand j'étais dans ma van, couché sur le dos avec toute la pile de choses pas le fun qui m'arrivaient, ben ça m'a fait sourire. Je me dis, ben à un moment donné, je vais me rappeler de ça puis je vais en rire, tu sais, c'était pas un état permanent. Je me disais comme, hey, ça pourrait-tu aller moins bien en ce moment? Non. T'sais. Puis même, je pense que je riais tout seul dans la van parce que c'était n'importe quoi. T'sais, à quel point toutes ces choses-là s'accumulent en ce moment. Puis je suis comme, j'ai l'impression d'être au fond du baril. Mais je le savais à ce moment-là que un peu plus tard, j'allais en rire. Puis que ça allait faire partie de mon parcours, ça. Un peu comme quand on va en voyage, puis il nous arrive plein de comment dire?
De
malheur. De malheur, d'aventures qui finissent mal. Ben, les premières fois, t'es comme non, non, mais après ça, t'en ris. Puis quand ça arrive après, une autre fois, t'es comme ah, ça va être drôle de le raconter ou comme, tu sais, c'est temporaire tout le temps, tu sais. Puis en tout cas, c'est juste une expérience. Puis je vais apprendre de cette expérience-là. Puis ta. Fait
que. C'est drôle que les semaines que tu te projettes dans le futur, c'est pas regarder en arrière pis rire.
Faire des jokes. Ouais, mais je pense que j'ai un bon humour, puis je pense qu'on en parle des fois. C'est entre autres parce qu'à chaque fois que quelqu'un, je suis avec quelqu'un, puis que la personne dit quelque chose ou qu'il se passe quelque chose, on dirait qu'il y a tout le temps une porte qui est ouverte dans ma tête pour dire comment je peux rendre ça drôle, tu sais. Cette porte-là est juste tout le temps ouverte. Fait que... fait que ça montre un peu pourquoi j'avais ces réflexions-là, même quand ça allait très mal, là, mais en tout cas.
Ben, je pense qu'une des facettes que j'apprécie toi aussi, c'est le fait que dans ton style d'humour, tu aimes beaucoup mentionner des fois des choses qui peuvent être un éléphant dans la pièce, de dédramatiser des situations par l'humour.
Ben oui, ben, c'est parce que l'humour pointe vers la vérité. Tu peux, quelque chose qui n'est pas vrai, une joke qui n'est pas vraie, c'est pas drôle. T'sais, ça va être exagéré, mettons, ça peut être une vérité qui est exagérée, mais l'humour vient avec un amour de la vérité, je pense. Mm-hmm. Parce que c'est ça qui fait comme rire.
Mm-hmm. Ben, en tout cas, dire, hey, je me reconnais là-dedans. Malgré tout, tu sais, je pense qu'à certains moments, il y a des choses qu'on n'avait pas le courage d'exprimer, puis il a fallu apprendre à. Ça a été une aventure de trouver notre voix aussi, puis
ben oui.
Notre place. Là. Mais bref, toi, tu étais à Montréal, tu n'avais pas une scène, là, tu relances un autre projet
mm-hmm.
qui s'appelait.
Ah oui.
À l'époque, Rafiki, ben justement parce que c'était un singe qui a bien de l'humour.
Je me suis dit que j'allais partir un blog parce que j'étais très dans... J'expérimentais beaucoup dans ma vie. Puis ça, des fois, ça intriguait les gens ce que j'essayais de faire. Fait que je me suis dit, je vais partir un blog. Puis pendant un an, je vais partager mes expériences que je fais. Puis j'essaie de mieux framer ça parce que c'était des expériences au niveau de la santé, dans le monde de la mm-hmm. santé. Puis je me suis dit, je vais créer quelque chose qui s'appelle 52 ramasses. Chaque semaine, je vais essayer quelque chose pendant une semaine, puis je vais documenter, puis je vais partager ça sur un blog. Puis j'avais un groupe Facebook aussi, à ce moment-là, qui était principalement des amis ou des gens que j'avais rencontrés à travers les années. Puis le blog s'appelait Rafiki, qui est un personnage du Roi Lion, que j'appréciais bien. Fait que, qui avait une vibe un peu drôle, babouin. Drôle et sage. C'est ça, là, comme
animal,
ouais, un babouin. Tu sais, qui était drôle et sage. Fait que, en tout cas, c'est un personnage que j'appréciais. Fait que, pendant, tu sais ça, je m'étais donné ce défi-là de pendant un an.
Mm-hmm.
Chaque semaine, essayer quelque chose partagé. Puis, tu sais, j'avais essayé de... Souvent, je coupais quelque chose pour voir l'impact sur ma santé.
Ouais.
Fait que j'avais coupé mon téléphone cellulaire. On est une semaine pas de téléphone cellulaire. Ou j'avais coupé le gluten, une semaine pas de gluten. Ces choses-là. Puis pendant cette semaine-là, oui, je coupais l'affaire, mais je faisais des recherches aussi pour voir c'est quoi l'impact de cette chose-là. Puis à la fin de la semaine, j'essayais de voir si je le réintégrais ou non. Dans ma vie.
Mm-hmm.
Ouais.
T'avais enlevé ton matelas?
Ouais, j'avais dormi à terre, comme pas de lit, j'avais fait pas de bobette à un moment donné.
j'avais oublié ça.
Finalement, j'avais pas fait, finalement, comme en cours de route, là, il y a d'autres choses qui étaient arrivées, fait que j'avais pas fait 52 semaines, mais j'en avais fait plusieurs là, pendant plusieurs mois.
Ouais. Puis à un moment donné, pourquoi t'avais changé de nom?
Du blog?
Ouais.
Je pense que. Moi, je voulais un mot qui représentait plus, peut-être, ce que je voulais, ce que je visais.
Mm.
Puis, ça s'appelait Vivace.
Ça s'appelait Vivace. Wow,
ça s'appelait Vivace. Vivace.blog, à ce moment-là,
Je me rappelle que je trouvais ça quand même cool. J'aimais l'énergie de
ce mot-là. Du mot Vivace.
Fait que je t'ai volé. Non, mais je pense que... Moi, c'est ça, c'était... L'aspect expérimentation, il y avait une vitalité là-dedans puis une énergie que j'adorais.
Mm-hmm.
Moi, en parallèle à ça, je travaillais sur Renard, puis c'est comme s'il y a commencé à avoir des sujets qui se rejoignaient chacun dans nos projets.
Mm-hmm.
Parce qu'à cette époque-là, j'avais découvert Cathy Bowman. Je pensais que je parlais trop d'elle parce que je parle tout le temps d'elle, puis on veut faire des t-shirts avec sa face dessus qui dit « Je t'aime, Cathy ». Mais récemment, hier sur Instagram, il y a quelqu'un qui m'a demandé « Ah, tu la connais sûrement », mais fait que j'ai fait « Ah, OK, ça vaut encore la peine de le mentionner
ouais. ».
Cette femme-là a une vision du mouvement complètement différente. C'est absolument unique ce qu'elle présente dans le monde. Puis elle valorise vraiment les mouvements du quotidien, ramener du mouvement dans nos activités quotidiennes.
Mm-hmm.
Puis c'est elle qui m'a fait m'a donné l'idée de dormir par terre aussi. T'sais, fait qu'il y avait des choses qu'on commençait à tester chacun de nos bords. Moi, par la porte d'entrée du mouvement, l'activité physique, puis toi, c'était santé en général.
Tu sais, comme il y a un peu de minimalisme, je pense aussi, là, dans mes expériences.
C'est
pour
vrai.
Voir, je peux-tu me débarrasser là, de ça? Après des années de vie nomade, ben, je voyais bien que s'enlever des affaires, ça faisait du bien des fois. Fait que
Ouais. Même t'avais enlevé le soleil, entre guillemets. Là.
Ouais, si ouais, ça c'était spécial là, que tu as appliqué
ça, à ça a été le pire, hein.
Je ouais.
Ça,
ben, dans le fond, c'est que je passais mes journées genre sans fenêtre, dans un espace complètement obscur, sans luminosité, sans soleil. Puis j'avais tombé malade après une semaine.
C'est fou.
Ouais, j'étais juste carrément malade après une semaine, pas de lumière, pas de soleil, ouais. Pas de vitamine D. On peut dire ça de même.
Fait que, ouais, des trucs assez fascinants. Des fois drôles, puis des fois comme ouais. Des implications plus importantes. Puis on était tout ensemble. On prenait des marches à Montréal, on jasait nos projets, puis on s'entraidait. Puis à un moment donné, ça a comme... Qu'est-ce que ça a été? Quoi le déclic que j'ai... On a comme réalisé que tu pouvais embarquer dans Renard.
Ben, c'est après un événement que tu faisais un pitch, je pense, pour justement parler du projet de Renard. Puis je t'avais comme aidé à... J'avais été ton paratonnerre un peu avant ça. Puis là, on avait commencé à plus se fréquenter à partir de ce moment-là. Puis pas longtemps après, vu qu'on était tout le temps ensemble, encore plus qu'avant, ben on avait décidé de comme joindre un peu nos deux projets. Puis c'est suivi à ça quelques années où ce qu'on a vraiment essayé de comme unir Marc-Claude et Vincent puis ce qu'on voulait faire, tu sais.
C'est vrai, hein?
Ouais.
Parce qu'on avait chacun nos forces, nos identités, mais c'est comme un couple. Là, quand tu t'allies dans une entreprise, il faut aussi qu'il y ait une identité commune.
Mm-hmm.
Puis vu que Renard était né sous mon identité, mon énergie, mon univers, qui était, on va le dire aussi, un peu plus féminin, mais ouais. C'était aussi un peu plus ce que je pensais que je devais créer. Tu sais, je ouais. Pense que ça nous a pris des années, en fait, faire des recherches puis des expérimentations. Mm-hmm. Parce qu'on a gardé cette approche-là que tu avais aussi avec Vivace, que j'adorais, qui est d'apprendre en faisant les choses.
Mm-hmm.
Puis je pense que c'est là qu'on a combiné nos forces. Moi, j'adore faire de la recherche. Là. Si vous me posez une question, s'il y a un thème qui émerge, là, j'apprends beaucoup par l'immersion. Fait que je vais étudier pendant des heures, écouter des livres, plein d'affaires.
Marc-Claude va trouver comme tous les experts, va trouver toutes les livres, sources. Toutes les sources, toutes les recherches, toutes les whatever. Fait que... Ouais. Tandis que moi, je vais juste le faire.
Toi, tu vas juste... Oui, exactement. Ouais. Ça, on l'avait vu avec Partifaction, quand c'était le temps d'apprendre un nouveau sport.
Ouais.
Moi, je m'arrêtais, je regardais la scène, puis j'observais. Moi, j'adore les sports très techniques, puis j'observais la technique. Puis là, après, je me disais, OK, je vais faire ça, ça, ça. Puis les gars dans l'équipe, ils se pitchaient, puis ils faisaient genre, je vais comme piquer la balle n'importe comment. Mais tu sais, eux, ils s'amélioraient par la répétition, par la pratique, par le volume.
Ouais.
Puis je pense que les deux... façon d'apprendre dans leur...
Sont valides,
ouais, sont importantes. Points. Puis il a fallu comme mixer nos énergies, en fait. Parce
c'était vraiment ça.
Parce que moi, j'avais tendance à beaucoup accumuler d'idées. Puis si je les matérialisais pas ou si je les partageais pas, tu sais, ou si je ne créais pas des choses, on dirait que ça finissait par peser l'eau. C'est vrai.
T'es constipé. C'est vraiment ça. Ouais. Je pense que c'est ça le terme.
Ça pesait lourd sur moi. Je pense que c'est facile de vouloir accumuler du savoir comme on accumule des possessions. J'ai réalisé que des fois, mes recherches étaient basées sur l'insécurité parce que j'avais peur de me faire invalider. Puis il y a d'autres moments que c'était vraiment nourri par une curiosité pure, puis je retrouvais l'enfant en moi. Puis je veux plus me connecter à l'enfant en moi. Mais fait, si après ça, je voulais juste apprendre le... avoir le plus de savoir possible, mais la clé pour moi, c'était vraiment après de me tourner puis de faire, tu sais, de créer, fait qu'on parle de podcasts, d'articles, de différentes choses pour après amener ça dans le monde puis le rendre accessible à d'autres personnes. Pour moi, c'est ça qui rend le savoir vivant, c'est qu'il soit partagé. Puis comme tu dis, toi, t'avais vraiment pas de résistance à juste t'exposer en faisant les choses.
Ouais, ouais. Je faisais les choses puis je m'exposais, tu sais, je faisais des lives sur mon groupe Facebook.
Il y a plusieurs années, là, c'était pas tant in.
Non, non, c'est zéro in, là, ça commençait les lives. Là, puis je sais que les gens aimaient bien ça. Fait qu'en tout cas, ouais, on avait chacun nos forces.
Ouais.
On a essayé d'unir.
Ouais.
Puis le summum de ça, c'est vivace.maison, en fait.
Maintenant.
Ouais.
Ah, mais là, tu sortes des étapes. Là.
OK. Là, j'improvise. C'est très classique.
Non, mais c'est vrai qu'on peut en parler. Ben. C'est ça, c'est un peu ça l'histoire du podcast, en fait. On a commencé un podcast parce que moi, on aimait faire des recherches. Puis ce format-là, c'était encore émergent à l'époque. Là, maintenant, comme tout le monde a un podcast, mais c'était encore émergent à l'époque. Puis je me disais, ben tant qu'à contacter des gens dans l'ombre puis garder ça pour moi, ben on va juste avoir les discussions en public puis comme ça peut bénéficier à d'autres personnes. Puis moi, j'étais absolument terrorisée quand j'ai commencé à toutes les formats de vivre. Le podcast, écrire, l'infolettre, tout me terrorise, mais j'ai tellement envie que ces idées-là circulent que c'est plus important pour moi d'être courageuse puis de le faire pareil. Puis, c'est ça. Puis toi, tu nourris cette énergie-là. Fait que de faire les choses en s'exposant, même si ça nous fait sentir vraiment, vraiment... Moi, ça me faisait sentir vraiment vulnérable.
Mais c'était un muscle aussi qu'il fallait travailler, j'ai l'impression. Là. De s'exposer publiquement, c'est quand même... Si on l'a jamais fait, c'est vraiment difficile.
Ouais.
Mais plus on le fait, plus ça devient facile. T'sais. Puis j'ai l'impression que j'avais commencé à travailler ce muscle-là avant toi, puis je t'ai amené à le faire aussi.
Un peu plus, puis à un moment donné, on devient à l'aise, puis finalement, t'sais, dès qu'on est dans une zone de confort, on part d'autre chose parce qu'on aime juste apprendre. Là. Mm-hmm. À cette époque-là, avec Renard, on se décrivait comme des éternels apprentis.
Mm-hmm.
Justement, tu sais, on se dit, on n'est pas des athlètes olympiques, on n'est pas... Moi, je suis assez inconfortable avec la posture d'être une experte de quoi que ce soit. Moi, je me sens full heureuse, là. Mon happy place, c'est quand le but, c'est d'apprendre. Puis au podcast, à cette époque-là, on avait aussi carrément aussi beaucoup de pédagogues, des éducateurs, des coachs, des entraîneurs pour comprendre comment on apprend.
Ouais.
Puis ça, c'était devenu ça notre force un peu, puis c'est le cœur de notre identité, c'est juste la curiosité.
Mm-hmm.
Quand je repense à ces années-là de Renard, je me rappelle que c'était ultra difficile parce que c'était stressant financièrement, c'était étourdissant parce qu'on trouvait des jobs in on the side pour continuer à créer. Mais à y repenser maintenant, je suis quand même vraiment heureuse de tout ce qu'on a fait puis de cette envie-là de défricher. Je pense qu'on voulait juste... Tu sais, il y a de quoi qui cloche avec le paradigme actuel de l'activité physique puis on voulait juste comprendre c'est quoi le cœur du problème, pourquoi l'humain ne bouge plus, puis développer une nouvelle philosophie du mouvement.
Mm-hmm.
Puis on a réalisé, c'est ça qu'on défrichait. Puis moi, j'adore l'idée de comment je peux contribuer à mon domaine puis amener des idées nouvelles. C'est super important pour moi, mais le revers de ça, c'est que si tu fais des choses que les gens n'ont jamais faites avant, ben tu es un peu seul, puis personne ne comprend ce que tu fais. On avait tellement de difficultés à expliquer ce qu'on faisait. C'est une
isolation qui vient.
Ouais. Surtout quand on consommait presque exclusivement notre contenu en anglais.
Mm-hmm.
Puis entre le domaine du mouvement, le mouvement du mouvement, là, la culture du mouvement du côté anglophone, doit être 10 ans, peut-être pas 10 ans d'avance, mais une couple d'années d'avance parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas amenées dans la francophonie. Fait que je pense que ça
la crée... fine pointe de ce mouvement-là est en anglais. Ouais.
Puis on dirait que ça crée un truc bizarre où nous, pendant des heures, on était dans cette bulle-là où on apprenait des choses puis on voulait les partager. Puis là, comme... La crowd dedans, c'était pas encore là, tu sais, mais... Mais bref, on a passé beaucoup de temps, hein. C'est juste essayer de créer du sens de cette industrie-là. Puis là, l'événement... Je pense un des plus gros points tournants dans ta vie, c'est quand je tombe enceinte.
Dans nos vies respectives, mais...
Non, ben on l'a vécu un peu différemment,
c'est
là,
clair.
Mais je sais que toi, j'ai senti ton énergie changer. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête?
Ben, il y a eu comme deux moments importants parce que on est aussi mariés, Marc-Claude et moi. Puis avec ce mariage-là est venu un engagement. T'sais, Vincent ne s'engageait pas beaucoup, mais là, c'était comme, non, à partir de maintenant, pour toujours, ça va être ça. T'sais. Fait que ça, je l'ai vécu avec Marc-Claude. Puis après ça, quand Marc-Aurel est arrivé, ben là, c'était comme, c'était encore plus puissant comme engagement là, parce que tu peux pas divorcer tes enfants. Puis tu sais, j'assume que je vais jamais divorcer Marc-Claude, mais il y a la possibilité. Un enfant, non. Tu peux pas divorcer tes enfants. Fait que c'était comme un engagement encore plus puissant. Puis il y a eu plein de réflexions avec cet engagement-là, cette nouvelle étape-là dans ma vie. Puis la plus grosse était, OK, ben j'avais un peu réalisé que avec des enfants, c'est pas tant de leur dire quoi faire ou de s'assurer qu'ils ont tout, tu sais, comme c'est d'être nous quelque chose. Qu'est-ce que je voulais représenter moi en tant que parent? Qui je voulais être moi en tant que parent? Puis dans toutes nos réflexions autour de l'activité physique, ben tu sais, je me disais, si je veux que mes enfants soient actifs, si je veux leur offrir une relation saine au mouvement puis à la santé, il faut que j'incarne ça. C'est pas juste de leur dire de faire des choses, c'est que moi, il faut que je le fasse. Puis ils vont voir, puis ils vont peut-être même poser des questions, comment, tu sais, que l'intérêt vienne d'eux, puis que je devienne plus un modèle de ça, de la santé, tu sais. Puis autant physiquement, mais tu sais, spirituellement, autant, tu sais, dans notre couple, tu sais, tout ça, là, tu sais, quel modèle je veux être pour mon enfant, tu sais. Puis, ouais, ça a brassé la cage pas mal.
Pour toi.
Ouais, pour moi, ouais.
Puis, ouais, parce qu'on le disait même au niveau statistique, dans les études, tu sais, un adulte assis sur un divan qui regarde son cell puis qui pointe la porte à un enfant puis qui dit « va jouer dehors », ça va pas régler rien.
Non.
Rien du tout, parce que la problématique est beaucoup plus complexe, puis c'est démontré que les adultes actifs ont des enfants actifs qui vont possiblement devenir des adultes actifs, puis qui vont... C'est un peu ça, cette idée-là d'héritage, là, puis de léguer autre chose à nos enfants, puis c'est comme si toi, ça a été à ce moment-là, t'es comme « OK, là, tous mes projets de bien-être. » c'est plus juste des projets où à un moment donné, si je le fais là, puis je pense que l'année que j'ai été enceinte...
Ben, c'est que tu le fais plus juste pour toi, tu sais. Il y a comme une transmission qui est faite, puis ça m'a fait réfléchir, moi, à mon enfance aussi, puis tu sais, j'adore mes parents, ils m'ont vraiment soutenu tout le temps. Quand je jouais au soccer, je faisais plein de sport quand j'étais jeune, ben, ils venaient me porter, puis dans les estrades, ils m'encourageaient à ramener à la maison, mais j'ai pas vu mes parents être actifs. Ou comme...
Mais je pense que c'est ça, hein? Cette génération-là, c'est...
Après ça, tu deviens adulte, t'es comme, ben, pour... C'est quoi être un adulte? Ben là, veux pas, tu regardes un peu les adultes qu'il y avait autour de toi, tes parents, tes grands-parents, tes oncles, Puis là, t'es comme, ben, c'est ça être un adulte. Puis pour moi, ce modèle-là, c'était pas quelqu'un qui était actif, qui avait un effort ou comme... Fait que ça m'a amené à me dire, OK, ben, tu sais, si je veux briser... ce cycle-là, ben, il faut que je l'adresse moi. Tu sais. Puis, ça va pas garantir que mes enfants vont être actifs ou vont adopter ça, mais ça va être ça le modèle au moins. Tu sais.
Ouais.
C'est ce que je vais leur léguer.
Ouais. C'est ça qui est particulier, parce que mes parents ont été... Comme tes parents m'ont soutenu dans toutes les idées qu'on a eues. Là, ma soeur voulait faire du tricot. Ou de la peinture pour aller cours de peinture. Puis ils nous ont toujours soutenus là-dedans. Puis, tu sais, c'est comme ce qu'on a vécu comme cheminement. C'est ça qui est spécial, c'est que, tu sais, nous, c'est notre histoire, puis on est attaché à ça. Mais en même temps, encore une fois, si je reviens au fait qu'on est vraiment banal, parce que la majorité des gens qui faisaient du sport, mettons, quand ils étaient enfants puis ados, en ce moment, ce qui arrive, c'est que les jeunes décrochent du monde du sport. Pour différentes raisons, mais souvent, c'est la pression de performance ou juste ton réseau se
dit... Hyper-spécialisation, il y a plein de...
Puis après ça, ben t'as juste plus rien parce que ta vision du mouvement était ancrée dans l'activité physique du sport plus classique, puis tous les mouvements du quotidien, il n'y a plus rien d'autre qui existe parce qu'on l'apprend pas ou on le voit pas de cette façon-là, tu sais. Moi, ce qui m'avait saisi à ce moment-là, quand je tombais enceinte, c'est que j'ai réalisé que là, il y avait une vague de naissance, puis de bébé. Tellement de gens sur Facebook annonçaient qu'ils étaient enceintes ou qu'ils venaient d'accoucher, puis présentaient leur nouvelle famille dans le monde. Puis au même moment, il y a des gens de notre entourage. Ma grand-mère est décédée après un long déclin d'Alzheimer, puis on voyait, tu sais, les gens vieillir ou avoir des bobos, des souffrances autour de nous. Puis moi, ce qui m'a frappé, c'est de dire, ah, il y a la prochaine vague de messages Facebook là, qu'on va voir le des annonces, là, c'est hey, mes parents, mon père est décédé, ma mère est décédée. Puis le focus des réunions familiales, ça va être pour aller à des funérailles. Puis moi qui me projette, tu sais, toi, t'es dans le moment présent, t'es comme, OK, qu'est-ce que je peux incarner dès maintenant pour mon enfant? Ben moi, j'essayais de voir sa trajectoire de vie. Puis de dire, ben en ce moment, ben je pensais même pas à ma trajectoire, tu sais, de dire, OK, moi aussi, si je change pas de style de vie, genre, je vais peut-être vivre un long déclin. On dirait que c'était beaucoup focusé sur mon enfant, tu sais, comme je voyais ce qui était arrivé à ma grand-mère, puis ce qui attend peut-être mes parents aussi, comme ce qui va arriver à mon enfant dans une couple de décennies si les choses sont pas adressées. Ouais. Puis j'en parle dans l'épisode solo, mais il y a des maladies chroniques associées à la vieillesse qui sont maintenant présentes chez les enfants. Fait que la perspective d'avenir sur leur espérance de vie puis leur qualité de vie en fin de vie, c'est pas super rose en ce moment.
Dans le sens que, ouais, c'est ça. L'espérance de vie augmente légèrement, mais l'espérance de santé est un peu en déclin, diminue.
Ouais, tu sais, c'est ça. L'humain en ce moment, tu sais, on a 9 à 15 années de mauvaise santé avant de décéder, tu sais. Puis, moi, ça m'avait assez marqué. Mais aussi le fait que, encore une fois, du côté anglophone, les maladies chroniques c'est pas les mêmes mots qui sont utilisés pour les décrire. En français, maladie chronique, il y a quelque chose qui amène un peu d'impuissance parce que c'est comme si la maladie est tout le temps là. Puis en anglais, souvent, ils vont plus utiliser les termes maladie de style de vie, lifestyle diseases, ou maladie prévenable, preventable diseases. Moi, ce qui m'avait amené vers l'univers des maladies chroniques, c'est quand j'avais lu le livre de... j'avais eu la discussion avec David Sanson, qui était un invité au podcast. On avait parlé de sommeil du point de vue anthropologique, puis il avait dit le terme « mismatch diseases ». Puis dans son domaine, c'est comme un terme qui est vraiment beaucoup utilisé. C'est les maladies de discordance évolutive, le fait que l'humain d'aujourd'hui n'a pas le style de vie qui répond à ses besoins biologiques fondamentaux, de nature, de connexion humaine et tout.
Parce qu'on a eu à peu près la même biologie pendant des milliers, voire des centaines de milliers d'années.
Millions, oui, c'est ça.
Depuis vraiment longtemps, puis là, le style de vie a complètement changé de comme 200 ans.
Ouais. Puis on s'en rend plus compte parce que c'est la culture qu'on connaît, puis bref. Fait que, tu sais, j'en parle dans l'épisode solo, comment j'étais un peu tourmentée parce que d'un côté, on faisait des recherches, puis on écoutait comme plein de médecins, puis de chercheurs, puis de gens qui disaient comme les maladies qu'on pense qui sont inévitables ou qui sont purement génétiques ou dues au hasard, on peut changer les choses juste dans le vocabulaire, tu sais. Fait que maintenant, nous, je pense qu'un des termes qu'on veut utiliser, c'est les maladies de civilisation ou les maladies de style de vie, tu sais. Puis c'est ça, fait que ça l'a comme ravivé, mais rendu hyper concret mon besoin de m'engager par notre compagnie à créer un univers différent puis à proposer des solutions pertinentes. Puis vu que j'étais enceinte puis que notre approche était de documenter au fur et à mesure, ben là, au lieu de parler juste de l'enfance, parce qu'avec Renard, c'est ça, on parlait beaucoup de l'enfance, le jeu libre, parce que c'est l'enfance qu'on avait connue à Laval, puis ça nous, on voulait protéger ça. Puis aussi la vie comme adulte en mouvement. Fait que, on faisait des trucs sur le bureau dynamique, comment dormir au sol, squatter.
Transport de charge.
Toutes sortes de sujets. Puis à partir du moment où je suis devenue enceinte, bien ça, c'est devenu des sujets qui sont embarqués dans notre univers de possibilités. Fait que, comment l'activité physique quand enceinte, le mouvement pendant l'enfantement, l'accouchement, les premiers moments avec le bébé, le peau à peau, le portage, tout ça, ça a comme complété notre vision qui est comme, maintenant, je l'appelle le continuum du mouvement. Fait comment un humain, c'est quoi les expériences attendues d'un humain de la conception jusqu'à l'enfance?
Jusqu'à la mort, en
fait. Oui, parce qu'on s'inclut là-dedans, parce que notre projet ne s'adresse pas tant aux enfants, il s'adresse aux parents, aux adultes. Ouais.
Mais on partage beaucoup.
Ils veulent créer autre chose pour leur famille, tu sais.
Oui. Puis on partage beaucoup ce qu'on fait là. Puis là, ce qu'on fait là, on est avec un enfant de 18 mois. Fait que, tu sais, ça teinte beaucoup les choses.
Ouais. Fait qu'on s'est dit, ben, nous, on doit aussi, par Vivace, par notre compagnie, ben, incarner le changement, tu sais, pour notre enfant, mais aussi dans nos communications. Tu sais, de pas juste partager des modèles théoriques, puis de dire « voici ce que vous devriez faire », mais de dire « en ce moment, on ne les a pas toutes les réponses, on va juste tester des affaires, puis s'entraider, puis le partager en cours de route, puis au fur et à mesure, les choses vont se clarifier. » Puis on dirait que la présence de Marc-Aurèle dans notre vie aussi nous a amené à se réengager aussi envers notre projet d'entreprise. Puis au printemps, ça va bientôt faire un an, on a senti qu'il fallait réinventer.
Une renaissance. Puis Renard est devenu Vivace.
Exact, on est retourné à...
Ça a été comme, finalement, l'unisson.
L'union.
L'union de Marc-Aurèle et Vincent. Puis c'est là que, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, ou tu sais, on dirait que on a créé notre style. Parce que c'était pas juste quelque chose qu'on regarde autour de nous, puis on doit faire à peu près ça. On dirait que ça a comme. C'est né un peu. Puis en tout cas, ouais.
Puis là, tout le long, on rit beaucoup, puis j'étais assez léger, puis je veux dire, c'est pas représentatif de certains moments creux, puis vraiment difficiles qu'on a vécu. Fait que, genre, je pense que je vais en parler un petit peu.
Mm-hmm.
Une fois qu'on s'est engagé, puis qu'on s'est mis plus à s'exposer, puis à être plus nous-mêmes, ben mm-hmm. c'est aussi à ce moment-là qu'on a aussi le plus de rétroaction positive, mais aussi négative, ou de résistance, ou de sous plein de formes.
Mm-hmm.
Puis c'est premiers moments-là, les premiers mois de l'existence de Vivace, puis comme parents, où on était aussi des nouveaux parents, c'était vraiment difficile.
Mm-hmm.
Je sais pas si toi, il y a des moments qui t'ont le plus marqué, tu sais, d'un commentaire ou de certains cinq situations qui sont arrivées, puis que ça t'a chamboulé ou tu t'es remis en question.
Ouais, tu sais, je pense que, comme tu le disais tantôt, ce qui est arrivé, c'est que nous, Marc-Aurèle s'en venait, dans un enfant, on commençait à réfléchir à toutes ces choses-là. Mais il y a aussi plein de gens autour de nous qui étaient dans cette étape-là. Puis le fait que nous, on avait comme un plan de match, on voulait faire l'hygiène naturelle infantile, on voulait pas de poussette, on voulait faire du portage, toutes ces choses-là, ben on le faisait parce qu'on venait, pour des raisons qui nous semblaient justes, mais que ça, on a commencé à détonner
mm-hmm.
beaucoup.
Mm-hmm.
Puis, veux pas, quand tu te mets à nager un peu à contre-courant, tu sais, quand tu fais pas juste suivre toutes les pratiques que tout le monde mm-hmm. fait, ben les gens te posent des questions, tu sais, par curiosité. Puis, tu sais, c'est normal, là, d'ailleurs, ben, pourquoi tu fais ça? Ou comme. En fait, il y a plein de réactions, puis il y en a qui vont être sur la défensive aussi, par rapport à.
Même sur l'attaque, ou. Mais.
Tu sais, ben c'est ça. Fait que. Ça a été difficile à ce moment-là parce qu'il fallait comme... On détonnait. Je pense que c'est dans notre culture, peut-être au Québec ou je sais pas trop, mais on dirait qu'on n'aime pas tant
déranger.
On n'aime pas tant le contre-courant. Ça prend, je pense, des personnalités quand même fortes pour continuer.
Mais c'est ça, on détonnait, oui. Ouais. On détonnait, puis moi, j'aimais pas du tout être dans cette position-là.
Mm-hmm.
Parce que ma vision... T'sais, on était vraiment dans une bulle, puis après avoir passé des heures à rechercher des choses, puis à vouloir tester des choses comme la vie sans couche avec sincèrement énormément d'enthousiasme.
Ben oui.
C'était bizarre pour moi comme de sortir de cette bulle-là, puis que les gens comme étaient pas nécessairement curieux de dire ah, ouais, parle-moi en plus, mais que ils étaient soit froids ou résistants envers l'idée. On dirait que moi, ça m'a shaké parce que je me disais hein, ok, ça fait pas de sens pour tout le monde, genre. Puis ça ramenait toutes mes insécurités de parler des saines habitudes de vie puis de dire, ben on peut changer les choses. Puis là, j'ai réalisé que l'idée du changement pouvait déstabiliser les mm-hmm. gens. Parce que, puis pour plein de raisons, tu sais. Puis, c'est ça. Fait qu'on a eu un large spectre de réactions.
Mm-hmm.
À la source, il y a des personnes qui vont dire qu'il y en a pas de problème. T'sais, on n'a pas de problème avec tel aspect. Fait que ça vaut même pas la peine d'essayer quoi que ce soit d'autre.
Mm-hmm.
Je pense qu'il y a des personnes qui vont dire « Ah ouais, il y a peut-être une problématique puis c'est peut-être possible de changer, mais c'est pas possible pour... »
Dans mon contexte à moi.
Puis moi, quand j'entendais les objections des gens, tu sais, des trucs des fois comme anodins, là, mais que on dirait que ça s'accumulait, puis pour moi qui étais anxieuse, ça nourrissait mes propres doutes. Mais tu sais, des choses comme « Ah, oh, vous comprenez rien, vous allez voir quand vous allez avoir deux enfants. » Tu sais, mettons, faire du portage. « Ah oui, vous pouvez, là, mais là, quand vous allez les aborder, ça ne sera plus possible. » Ou vous allez voir quand votre enfant va peser 30 livres, ça va être trop lourd.
Mm-hmm.
Des commentaires aussi « Ah, t'es juste fatigué parce que tu fais du cododo, c'est quand que tu vas le laisser dormir. »
Mm-hmm.
Tout seul. T'sais, fait un peu ce message-là que ce qu'on fait est soit anormal ou ça s'applique pas pour les gens ou ça s'applique pas pour tout le monde, fait que c'est invalide. Moi, ça me déstabilisait beaucoup. Beaucoup parce que à préparer l'épisode, en fait, j'ai réalisé que ça me déstabilisait parce que j'y croyais à ce que les gens me disaient. Parce que moi, je doutais de moi-même. T'sais, pis il a fallu que j'apprenne à me dire Okay, ben, en quoi est-ce que moi je crois?
Mm-hmm.
Puis d'apprendre que, tu sais, la perception de l'autre personne, ben faut que j'écoute, faut que je sois empathique. Puis quelqu'un qui m'émet ce genre de commentaire-là, elle fait juste parler finalement de défis qu'elle rencontre, puis peut-être de choses qui semblent insurmontables. Même si pour moi, tu sais, je suis full, ah, il y a toujours des solutions, puis il y a toujours, tu sais, je ne veux jamais abandonner. Mais effectivement, quand quelqu'un m'arrive avec des défis qui semblaient être une finalité puis qu'il n'y a rien à faire,
mm-hmm.
ben moi aussi, mon énergie tombait.
Mm-hmm.
Puis j'oscillais entre, ah, oh, je suis juste pas assez bonne, j'ai pas rapport à, OK, mais je suis qui, moi, pour prétendre qu'on peut aspirer à mieux, tu sais.
Mm-hmm.
En tout cas, chaque mon... comme genre, deviens un peu plus nerveuse, puis chaque mon esprit est un petit peu éparpillé, mais, tu sais, un exemple concret, tu sais, d'une vague d'exposition qu'on a eue, c'est l'article du Journal de Montréal avec La vie sans couche.
Oui, parce que c'est ça, on faisait l'hygiène naturelle infantile, on faisait des publications par rapport à ça, puis il y a un journaliste qui nous suivait, qui suivait la page de Vivace pour en tout cas, des choses qu'on a faites dans le passé, puis quand il avait vu cette pratique-là, il ne connaissait pas du tout, ça a full piqué sa curiosité, mm-hmm. il nous a contacté, il a dit hey, « je passerais, comme j'ai envie de faire un article sur vous ». C'est comme une chronique urbaine, quelque chose de... Pas une première page du Journal de Montréal, mais une petite chronique sur cette pratique-là, pourquoi on le fait, c'est, en tout cas, fait sur ça, tu sais. Puis, à la fin, tu sais, il passait à l'appartement, on passait du temps avec lui, on lui a expliqué tout ça. Puis, je me rappelle, je pense, dans les jours qui ont suivi, ou en tout cas, avant que l'article soit publié, il nous avait dit, là, il va y avoir plein de commentaires. Surtout sur Facebook, parce que, tu sais, le Journal de Montréal partage ces articles, ce genre d'articles-là sur Facebook pour avoir de l'engagement et tout. Puis il nous avait dit, vous n'êtes pas obligé d'aller voir ces commentaires-là. Puis on était quand même allé les voir.
Moi, j'avais dit, effectivement, je n'irai pas les voir parce que ça m'aurait trop chamboulé. Mais finalement, Vince était allé voir parce qu'il était curieux. Puis il m'en disait quelques-uns. Puis je suis contente d'avoir écouté parce que ma peur de me faire rejeter ou critiquer d'une masse d'étrangers, finalement, elle s'est vraiment dissoute, tu sais, parce que il y a des commentaires des gens que c'était ultra précipité puis ils avaient clairement pas
lu l'article,
ou n'étaient pas curieux, puis ils rejetaient l'idée, tu sais, du genre comme... Puis on avait fait un palmarès avec dans nos stories de celles qui nous avaient fait le plus rire, puis sincèrement, moi, ça me vraiment beaucoup aidé à gagner en confiance, de dire « Ah, oh, mais tu sais quoi, finalement, l'opinion de quelqu'un que j'ai jamais rencontré, qui interprète une de mes actions dans son univers sans être curieux mm-hmm. ou d'en apprendre davantage, ben ça change rien à ma vie. »
Non. Puis je pense que, tu sais, l'article est arrivé à un moment, Markel était quand même plus vieux, là. Puis ça avait comme fonctionné en grande partie, la chenille de bas... 100% sans couche, 100% du temps, mais comme c'était déjà majeur.
Comment ça allait bien?
Comment ça allait bien? Fait qu'on avait un niveau de confiance, là. Tu sais, quand tu te dis, je vais essayer ça,
ouais, mettons, c'est normal.
Je vais essayer de faire cette affaire-là que personne d'autre a faite autour de moi, ben, c'est sûr que tu doutes, tu sais, parce que si personne d'autre l'a fait autour de toi, t'as peut-être entendu parler de gens qui ont réussi ou whatever, mais tu sais, c'est normal que quelqu'un qui émette des doutes. Là, ça fait mal parce que toi aussi, tu sais, profondément, tu doutes un peu, tu l'as jamais fait. Mais là, à ce moment-là, on avait comme... Moi, je considère qu'on avait réussi, tu sais, en grande partie. Fait qu'on dirait que les gens qui doutaient ou qui étaient plus sur la défensive, ou même qu'il y en a qui confrontaient, ben, tu sais, ça me faisait rien parce qu'on l'avait fait.
On l'avait fait, puis on voyait comment ça amenait plein d'effets.
On essayait pas de prouver que c'était possible. C'est comme, hey, on a fait ça, tu sais.
Ouais.
Ça a fonctionné, puis on l'a fait pour ces raisons-là.
Ouais.
Fait que la critique était comme...
Ouais.
En tout cas,
ben, ouais, puis, tu sais, nous, on savait les bienfaits. Fait que, tu sais, ce qui venait me chercher un peu plus, c'est quand les gens avaient l'air de sous-entendre que c'était mauvais pour l'enfant.
Mm.
Ou lui qui m'avait fait super rire, là, c'était les gens qui disaient, ouais, puis ils vont-tu apprendre à leur enfant à chasser le mammouth? Comme si enlever la couche était arriéré. Puis moi, ça me fait ultra rire, mais c'est ancré dans la vision... que j'aime questionner que l'humanité va toujours vers plus de progrès, mm-hmm. puis que plus de technologies, puis plus d'objets, c'est nécessairement un signe de statut social ou de progrès social.
Mm-hmm.
Nous, on essayait complètement de flipper la patente avec Vivace. Au lieu de se dire, puis même au niveau des bienfaits de la chenille, ou de cette attitude-là de prouve-moi par un article scientifique que c'est sans aucun risque avant que je considère changer mon action. Mm-hmm. Pour moi, ça ne marche pas, ce modèle-là, parce que, premièrement, la recherche, elle n'est même pas capable d'avoir... Il y a des domaines qu'elle n'étudie même pas. Le sans-couche n'est pas étudié en ce moment parce que personne ne peut va payer pour ça. Là, ça va peut-être venir, là, mais il faut quelqu'un pour financer les recherches.
Retirer des technologies, c'est rarement financé.
Fait que nous, notre posture de départ, c'est de dire, OK, au lieu d'essayer d'adresser un symptôme puis de revenir en arrière par la recherche pour dire pourquoi ça cause ça, puis nanana, c'est de revenir à l'essentiel puis à comment l'humain a évolué avant. Puis c'était quoi son contexte dans lequel il s'épanouissait. Puis comment on est capable de reproduire ça à l'ère moderne, puis de savoir que tous les animaux vivent sans couche, puis l'humain veut évoluer sans couche, bien, moi, ça m'a inspiré. En tout cas, bref, fait que ça a été un, ça m'a comme aidé quand même. Puis ça l'a amené vers nous plein de personnes le fun aussi, parce que des gens qui disaient, c'est fou l'intriguant. Puis...
Parce que pour que quelqu'un dise, wow, tu sais, comme que quelqu'un aime vraiment ou comme accroche vraiment à ce que vous faites, bien, il faut aussi. Tu peux pas juste avoir ça. Ça prend un niveau de critique, j'ai l'impression. Ça prend comme des forces un peu polarisées là, pour commencer à exister. Là, de dire comme, il y a des gens là, qui nous ont écrit comme « Oh, c'est trop cool, là, je vais essayer ça » ou comme « Ah, moi aussi, je fais ça » puis j'en parle aux gens, mais tu sais, c'est tellement nouveau, je me sens tout seul, whatever. Fait qu'il y avait des gens comme ça. On a attiré beaucoup de gens, mais on a repoussé aussi plein de gens qui sont comme « Coucou, les amis, pas de couche, wow. » Fait que tu sais, c'était intéressant de le vivre, tu sais. Puis on a survécu. Il y a plein de gens qui ont fait genre, wesh, c'est pas pour moi. Mais il y a plein de gens qui ont fait, waouh, c'est vraiment pour moi.
Ouais, en tout cas. Oui, à cette époque-là, là, dans ces mois-là où on parlait de toutes sortes d'affaires aussi, le portage, en tout cas. Tu sais, on s'est fait décrire comme des gens flyés, comme des gens intenses. Comme... Puis sur le coup, moi, j'en voulais pas cette étiquette-là parce que je me disais.
Je suis pas weird.
Je suis pas weird, puis je suis pas rebelle. On n'est vraiment pas des rebelles. On aime juste questionner les choses. Puis des fois, on va suivre certaines normes parce qu'ils font du sens pour nous. Puis il y a des fois qu'il y a des choses que, à partir du moment où ça fait plus de sens, on n'est juste plus capable d'agir. Mais j'ai fortement pas une norme de rebelle, même si je suis capable d'en mettre des systèmes
en question. On nage pas contre courant juste parce qu'il y a du courant.
Parce que c'est le fun, puis de dire comme, je veux juste être absolument différente de tout le monde.
Le courant n'aura pas le contrôle sur nous. Mais ça n'a pas rapport. Nous, c'est plus comme, on a. On se pose des questions, puis comme un moment donné, on se rend compte qu'on va à contre-courant, puis on est comme, all right, mais si ça prend ça pour se sentir intègre, on va aller à contre-courant.
Moi, j'étais pas zen de même. J'étais pas comme, all right, je vais mettre mon panneau. Moi, ça a été un méga tournant, mais je pense que pour toi aussi, là, parce que au fond de toi, ça t'arrivait à certains moments de dire, peux-tu juste être normal? Il me semble qu'on avait ces discussions de dire, il me semble que ça ferait du bien d'être dans une gang de monde qui pense comme nous puis qu'on se sent pas que notre vision est bizarre ou que les gens nous comprennent pas ou qu'on doit se taire parce qu'on déstabilise les autres.
Je peux juste me sentir intègre puis aller avec le courant maintenant.
Ouais, c'est ça.
c'est comme pourquoi c'est si difficile?
Puis moi, je pense qu'il y a un moment aussi où j'arrivais juste pas à comprendre que l'humain en est rendu là dans sa vie, tu sais, qu'à quel point notre style de vie est dénaturé puis que les pratiques comme le pot à pot, le coup de dos, c'est toutes des pratiques traditionnelles. C'est les pratiques traditionnelles depuis toute notre évolution. Puis que là, on est considéré comme étant des weirdos de vouloir appliquer ça, puis qu'on doit se justifier. Tu sais, le livre de James McKenna sur le sommeil partagé, le coup de dos, il faut qu'il ressorte. C'est 30 ans de recherche pour prouver que c'est pas dangereux.
Mais ce qu'on a fait pendant des millions d'années, pas dangereux.
Pas dangereux. En tout cas, fait que même moi, là, il y avait une grosse dissonance de dire c'est juste bizarre de devoir m'exposer pour justifier un peu les choses, pour que la personne soit le moindrement ouverte à ce que je vais présenter comme idée qui n'est pas mainstream. Mais finalement, je pense que c'est une époque aussi où on a réalisé qu'on n'avait pas à convaincre les gens. On revenait toujours à cette posture-là qu'on est juste là pour incarner. On est là pour incarner le changement pour notre enfant, partager ce qu'on découvre en cours de route, puis que les gens avec qui ça résonne, ils vont nous trouver, puis c'est tout, tu sais. Puis je pense que il y a une partie de moi qui veut mettre en lumière la problématique, puis je veux amener une prise de conscience, mais il faut que je let go, que ça se peut que ça résonne jamais avec certaines personnes, puis qu'ils ne voient jamais ce que je vois, puis qu'il faut que j'arrête de penser que je suis folle parce que quelqu'un ne voit pas ce que je vois non plus. Tu sais. C'est ça. Puis, fait que ça, je pense que c'était une époque aussi où on avait un gros rush d'adrénaline. Parce que c'était comme la première année de vie de Marc Aurel.
Ouais. On essayait plein de choses. Tu sais, veux pas. Il y a plein de pratiques qui sont traditionnelles, mais pas conventionnelles. On était assez diligents avec ces pratiques-là. Fait que, tu sais, comme c'était intense. Mm-hmm. Puis c'était notre premier enfant. Fait que ça, c'était intense. Puis à ce moment-là, on bougeait beaucoup parce qu'on avait toutes des réflexions sur la vie de clan aussi.
Mm-hmm.
Fait que, en tout cas, ça a été. La première année de Marc Aurel a été vraiment intense. On peut dire ça comme ça.
Mm-hmm. Ouais. Puis là, après ce qui est arrivé, c'est une autre phase, puis on va comme. C'est comme. On dirait la dernière. C'est comme la traversée du désert avant qu'on ait eu. La lumière soit revenue, là. C'est ouais. Qu'après le méga rush d'adrénaline, là, c'était juste la vie comme continue, puis il n'y a juste jamais de répit.
Mm-hmm.
Puis c'est juste un essoufflement, comme. J'étais complètement vidée. Parce qu'après mm-hmm. l'intensité,
mm-hmm.
là, on dirait que j'avais plus rien pour.
Ouais.
J'avais plus de carburant, là.
C'est comme, déjà, les premiers, ouais, c'est ça, la première année, c'est pas mal sur l'adrénaline, mais tu te rends compte après que ça va continuer pour un temps indéterminé. Oh, c'est juste un nouveau style de vie, tu sais, c'est comme une page qui s'est tournée. Là.
Ouais, tu sais, puis on en a parlé dans nos stories, mais quand on a décidé de déménager à la campagne, parce que, justement, dans la première année de vie de Marc Aurel, j'étais vraiment dans la perspective de reverdir la ville, puis si mm-hmm. on était resté en ville, tu sais, on habitait au deuxième étage, je me disais, je crois vraiment qu'il y a toujours des solutions. Mm-hmm. Fait qu'on a pensé à chaque pouce carré de notre appartement. Là. On a des vidéos, là, je pense qu'on a 50 vidéos de tous les tests qu'on a fait à cette époque-là.
Mm-hmm.
J'ai questionné chaque pouce carré de l'appart, comment dynamiser son corridor. J'ai même considéré mettre une cachette dans notre puits de lumière. Là, comme mm-hmm. on a réaménagé notre balcon pour essayer de vivre dehors. On a dormi dehors pendant les journées de canicule. On a testé plein d'affaires. Puis la prochaine étape, c'était sûrement de faire une ruelle verte puis de se créer une petite vie de village à l'échelle de notre quartier, de notre ruelle, en fait. Mm-hmm. Fait que ça, c'était comme...
Font, hein? Oh, ouais.
Mais on dirait qu'il y a une suite d'événements qu'on a parlé dans l'épisode sur notre déménagement qui a fait qu'on avait un appel pour de la nature qui était la nature un peu sauvage.
Mm-hmm.
Puis on avait aussi besoin, c'est ça, d'une vie de village où il y a un gros focus sur le tissu social.
Mm.
Mais quand on a déménagé, on a eu l'aspect nature, mais on s'est éloigné de nos familles, puis il y a une pénurie de garderie
mm-hmm.
qui fait que toi, t'es devenu papa à la maison.
Ouais.
Puis au début, ça a fait, ah, yeah, OK, ça va marcher, on va le toffer, mais à un moment donné, c'est comme, là, ça, on se rend compte comment c'est dur à soutenir aussi comme
rien. Mm-hmm. Mm-hmm. Ben, c'est inhumain, là, d'être la parentalité, c'est un peu une découverte qu'on a faite avec l'arrivée de Marc Aurel, mais c'est inhumain comment c'est géré en ce moment, là, d'être isolé avec un enfant. Puis même si on a de l'aide une fois de temps en temps, ça peut jamais répliquer l'espèce de vie de village dans lequel on évolue, là, où mm-hmm. il y a tout le temps quelqu'un qui peut aider.
Ouais.
Tout le temps.
Ouais. Fait que moi, ça a été une époque, même après le déménagement, où pour vrai, là, on est en amour avec la maisonnette, on a nos voisins, t'sais, mm-hmm. sur le même terrain, il y a des amis qui vivent dans la maison d'à côté, comme c'est vraiment génial. Ben, on dirait qu'il me manquait encore quelque chose.
Mm.
Puis j'ai atteint un niveau d'épuisement où je disais à Vince, des fois, je pleurais, puis j'étais là, j'abandonne. Vince, j'abandonne. Puis une fraction de seconde passait, puis j'étais comme, ah, fuck, je peux pas abandonner, il n'y a rien qui change.
Oh, qu'est-ce qu'on a?
Je peux pas caler malade, je peux pas appeler mon boss, puis dire,
j'abandonne.
J'abandonne. Genre, j'ai pas de boss, tu sais, j'ai pas de paiement de maladie. Mais au-delà, tu sais, d'être payé, prendre une pause de travail pour un burn-out, c'était juste ça de dire, OK, ben, il faut quand même que je me lève le matin puis que je m'occupe de mon enfant. Puis, comme, à y repenser, tu sais, je réalise aussi comment, avant toute ma vie, c'était comme un long filon gris. Puis, on dirait que, dans les derniers mois, ce que je ressentais, c'était énormément de colère. Je sais pas, j'étais ultra réactive puis à cran. Puis je pense que c'est une réaction de mon système nerveux, mais je pense aussi que c'est parce que j'étais sur le point de guérir des choses. T'sais, on dirait que ça revenait tout à la surface.
Ouais, tout revenait à la surface.
Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu sens qui a émergé des derniers mois que tu essayais d'étouffer ou que. Je sais pas, y a-t-il des choses que tu essaies de tasser que là, tu l'avais en pleine face? Puis.
Ben, je pense que, tu sais, j'ai toujours apprécié. Je sais pas comment dire. Pouvoir passer du temps tout seul, faire mes petites affaires. Puis là, c'était comme plus possible. Fait que c'était exigeant. Tu sais, de comme jamais avoir de temps pour moi. Tu sais, il y avait tout le temps Marc Aurel. Comme même, il dormait, mais tu sais, quand il dormait, j'essayais de faire des choses pour Vivace. Puis comme je travaillais, tu sais. Fait que cette espèce de... C'était tout un peu comme toi, mais tu sais, c'était tout le temps... c'était tout le temps là, tu sais. Puis j'avais pas de moment pour moi. Ça, j'ai trouvé ça tough. Mais en même temps, j'ai aussi réalisé que dans ma vie, j'ai pris beaucoup de moments pour moi. Des fois, on se regarde, puis comme, on est genre, wow, qu'est-ce qu'on a fait dans notre vingtaine? Maintenant qu'on a un enfant, que chaque minute est importante, ben, comme, on dirait qu'on se dit, wow, j'ai tellement perdu de temps. Fait que là, j'ai essayé de l'inverser dans ma tête, puis tu sais, je me dis, ben, ces moments-là avec Marc Aurel, ben, je les aurais pas, là, comme, ils sont uniques, tu sais. J'y revivrai pas, là. Fait que, tu sais, sont importants, puis sont nécessaires, puis, tu sais, je vais les vivre, tu sais, puis à d'autres moments dans ma vie, je vais avoir plus de moments pour moi, mais tu sais, je me rappelle ça, c'était challengeant, tu sais, de, OK, je passe 10 heures avec Marc Aurel, puis là, je me couche, puis là, on fait du coup de dos, puis là, je me réveille le lendemain, puis, tu sais, ça compte, tu sais, c'est un espèce de cycle permanent de, je vais peut-être avoir un moment pour moi à un moment donné, puis, tu sais, veux pas, moi, avant Marc Aurel, ben, tu sais, je m'entraînais comme chaque jour, puis j'étais vraiment en shape. Puis ça a pris le bord un peu quand Marc Aurel est arrivé. Parce que ça a amené un chaos. L'arrivée de comme, il y a quelqu'un qui peut interrompre ce que je fais n'importe quand. Que là, c'était difficile de garder un programme où je fais, tu sais, j'étais pas des gros workouts, là. Je prenais une demi-heure par jour, puis je bougeais. Là. Mais tu sais, je me rappelle que ça a clashé. Puis j'essaye encore à ce jour de résoudre ça dans ma vie. Là, parce que c'est quelque chose que j'aimais faire. Fait que j'aimerais ça le ramener. Mais ouais, c'est ça. Ouais.
Ce paradoxe-là de dire je veux la meilleure santé possible pour mon enfant. C'est ça, puis paradoxalement, nous, notre santé, on sentait qu'elle s'était détériorée. Mais en même temps, si j'étire.
Ouais, si j'étire trop l'élastique, ben là, je vais pas incarner ce que je veux léguer à mon enfant. Tu sais, ben, comme il y a une espèce de danse, là.
Ouais, ben, pour moi, c'était même plus une possibilité d'aller m'entraîner au gym. Puis on n'est pas dans ce paradigme-là de dire comme. Ok, je corps ma vidée, mais faut juste que j'aille faire du sport. T'sais, comme on sentait qu'il fallait reconfigurer plusieurs choses dans notre vie. Mais si on étire comme la perspective temporelle, j'avais l'impression que ma santé était paix, mais finalement, maintenant qu'on sort du mode survie, parce que Marc Aurel dort un peu mieux, parce qu'on s'est engagé dans un nouveau projet, puis on dirait soudainement la vie nous envoie plein de trucs, puis on va avoir une garderie, ben on dirait que ça apaise mon système nerveux, puis on sent qu'on va avoir du répit. On sort du mode survie, puis là, je regarde en arrière, puis je me dis, « Hey, maintenant, là, grâce à toute cette traversée-là, je me sens plus en santé, je pense, spirituelle que jamais, parce que Marc Aurel a juste comme tout soulevé la crap que j'avais en dedans de moi, l'a mis dans ma face, puis il a fallu que je fasse le ménage, puis que je choisisse délibérément autre chose, parce que je me disais, je peux pas vivre comme ça, plus longtemps, tu sais.
Fait que ça a été, ça a comme amené une santé spirituelle plus solide. Mais ça a été une pause pour la santé, ben comme une pause. On a continué quand même.
De faire plein de choses, tu sais.
On a continué de faire plein de choses avec Vivace, puis on est encore beaucoup dans le mouvement. Mais ouais, c'est ça.
Ouais, quand je vivais ça, on dirait autant j'étais désemparée, mais ça me faisait repenser à d'autres histoires de d'autres personnes que j'avais entendues. Puis je me disais, ah, OK, il y a un cheminement. T'sais, je suis sur un cheminement, puis j'approche la guérison. Puis, tu sais, il y a un exemple qui m'était venu en tête, c'était Eckhart Tolle, quand il racontait qu'il y avait des pensées suicidaires, puis qu'il s'était dit la phrase, je peux plus vivre avec moi-même plus longtemps que ça, tu sais. Puis il a comme réalisé que c'est comme s'il y avait deux personnes, comme s'il y avait une autre personne, puis il a réalisé qu'il y avait lui, tu sais, son âme, mais il y avait aussi son ego, puis il juge que cette soirée-là, c'est son ego qui s'est dissolu, puis qu'il a retrouvé qui il était vraiment. Puis moi, c'était un peu ça, les mots qui me venaient à l'esprit, c'est « je peux plus vivre avec cette personne-là à l'intérieur de moi, qui fait juste dire du négatif, tu sais. » Puis l'autre histoire qui m'avait full inspirée, c'est un conte autochtone que j'avais lu quand j'étais enfant, là, fait je l'ai, puis j'ai pas réussi à le trouver, mais c'était soit fin primaire ou secondaire. C'est un conte autochtone où c'était une jeune fille qui devait trouver un époux, puis par un concours de circonstances, là, je ne me rappelle plus trop l'enchaînement d'événements, mais elle s'était retrouvée dans le fond d'un lac. Puis ça décrivait la scène qu'elle se faisait manger par des petits poissons, puis qu'il restait juste son squelette à la fin. Puis moi, comme enfant, j'étais horrifiée parce que j'avais pas de compréhension de la symbolique des choses. Puis mon père, c'était avec moi, puis il m'avait expliqué super calmement. Il dit non, mais c'est juste pour démontrer que avant de trouver la voie ou de renaître, la vie va t'es dépossédé. La vie va enlever tout ce qui est superflu.
Toutes les couches superflues.
Puis ça va revenir à ton essence. Puis là, du coup, j'avais fait. Ouais, c'était un peu weird de l'expliquer de même à un enfant, mais de raconter un conte de mal à un enfant, mais ça m'était toujours resté en tête, puis on dirait que c'est ça que la vie me fait vivre d'une certaine façon, puis ouais, c'est ça. Fait que...
T'es fait de manger par des petits poissons.
J'étais un petit squelette. Mais... puis ce qui est particulier, c'est que, ben, encore une fois, l'arrivée de l'histoire dans notre vie, comment c'est aussi entendre les récits de d'autres parents, comment ça m'a fait réaliser que mettre en lumière certaines choses, c'est le premier pas pour guérir. Puis à partir du moment où j'ai commencé à écouter l'histoire des autres puis aussi à préparer mon propre récit pour l'épisode solo, je pense que toi, t'as senti un shift énergétique. Comment j'étais dans le quotidien.
Ben, je pense que, tu sais, il y avait un niveau de censure qui était associé à ce passé-là où c'était peut-être refoulé un peu, mais tu sais, carrément le dire puis même de l'écrire parce qu'il y a eu du travail avant l'épisode, ben comme on dirait que ça a full allégé Marie-Claude, là, puis son énergie a vraiment flippé rapidement.
Parce qu'à ce moment-là, je disais souvent comme hey, j'ai l'impression que nos énergies travaillent en parallèle, puis j'ai l'impression que tu es désengagé, puis ça me fait rappeler que toi, c'est quelque chose que tu vois comme étant ton défi, là, c'est que t'étais définitivement dévoué à Marc-Aurèle, puis tu m'aidais de plein de façons pour m'aider dans ma vie personnelle. Puis là, j'avais l'impression que par rapport à Vivas, il y avait un certain désengagement, puis qu'on était revenu à cette dynamique-là où j'avais l'impression que c'était comme plus mon projet, puis que tu me soutenais, mais que c'était pas... T'avais pas un sentiment d'appartenance.
Non. Ben, tu sais, comme... Puis... Ça a toujours été un peu comme... J'ai eu une enfance très solitaire, puis je me suis rendu compte que quand ça n'est plus le fun d'être avec des gens, ben, ça me dérangeait pas d'être tout seul, tu sais. Fait que je partais, tu sais, je faisais mes affaires, tu sais. Fait que je me rends compte que ce réflexe-là existe encore en moi. Tu sais, comme quand ça devient plus le fun, ben, je me dis, OK, ben, je vais aller faire autre chose. Mais c'est encore un struggle que j'ai à ce jour. Là, comme, ben non, l'engagement vient avec le. C'est pas le fun, mais il faut passer à travers. Il faut get it done pour quelque chose de plus grand. Fait,
c'est intéressant parce que t'es pas du tout dans la confrontation.
Non, vraiment pas. Ben, moi, j'ai grandi dans une garderie en milieu familial. Ma mère avait ça. Puis. Il y a des anecdotes des fois de comme mes amis qui voulaient jouer à quelque chose, puis qui insistaient. Puis moi qui étais comme, ben, ça me tente pas, puis j'allais jouer à d'autres choses. Puis ça faisait de la peine à mes amis des fois. Parce qu'ils étaient comme, mais là, ben, ça, il est juste parti faire ses affaires, puis il est mignon. Puis j'étais comme, ben, ça me tente de faire ça, moi ça me tente pas, ben tu sais, on va juste chacun. Mais tu sais, il y a des gens qui cravent plus le fait d'être en équipe tout le temps. Là. Moi, t'sais, comme c'était pas tant ça. Mais quand j'ai du fun à faire quelque chose, puis il y a d'autres gens, j'ai du fun, tu sais. Mais quand ça devient moins le fun, j'ai tendance à me replier. Puis j'ai juste à aller faire d'autres choses. Puis ça a été ça, mon parcours, longtemps. T'sais.
Ah, mais...
L'engagement, le mariage, l'engagement, Marc-Aurèle, l'engagement,
ça vivace. Ça va aller fun, ta vie.
Ben là, c'est lourd, puis c'est pesant. Mais tu sais, c'est une façon pour moi d'adresser ou de devenir meilleur pour m'engager, en fait. Tout en restant capable de... d'être dans le moment présent puis de let go beaucoup, là, tu sais, comme...
Ben, je pense qu'une de tes grosses réalisations de ton côté, c'est que la liberté se retrouve aussi dans l'engagement, tu sais, dans le sens où l'absence de cadre puis le chaos total peut pas mener à l'épanouissement.
Non, ben, tu sais, comme, on a tendance à voir le fait de pas s'engager comme quelque chose de libérateur, parce que là, t'es comme dans un monde de potentiel, mais, tu sais, il y en a trop de potentiel dans la vie. Il y en a trop, puis t'es tout le temps à la merci de la nouvelle affaire qui va arriver dans ta vie. T'sais, fait de t'engager, de dire, comme, OK, non, mais ben maintenant, ça va être, mettons, avec un mariage, ça va être juste avec cette personne-là pour toujours. Ben là, ça restreint le potentiel, mais il est encore là, le potentiel. Il y a plein de choses que tu peux faire dans ce potentiel-là. Mais t'es plus juste à la merci de chaque nouvelle personne qui arrive dans ta vie. C'est-à-dire comme, ah ben là, je suis en couple, mais là, cette personne-là, je pourrais être en couple aussi avec cette personne. C'est comme, c'est con, mais c'est en réduisant les possibilités, en t'engageant, ben là, ça te libère, tu sais.
Parce que tout ton focus et ton énergie peut être mis sur une chose, puis cette chose-là va grandir.
Exact. Même chose que, ben là, si je me commets à une personne avec un mariage, puis à un projet avec Vivace, ben là, comme, si je rencontre des nouvelles personnes, ben, ils rentrent dans ça, tu sais, puis là, comme, toi, t'intéresser à la personne, puis là, OK, ben, elle a ces skills-là, puis là, t'es comme, ah, ben, tu sais, est-ce que ça pourrait nous aider dans le projet? Est-ce qu'on pourrait l'aider dans son projet? Tu sais, on dirait que, au lieu de se dire, ah, ben, je pourrais être en couple avec cette personne-là, puis je pourrais, comme, embarquer 100% sur son projet à elle, puis comme, on dirait que là, non, c'est comme, on essaye d'harmoniser plus les choses qu'on fait, en tout cas, ouais. Je sais pas si c'est clair.
Ben, non, ça fait quand même du sens, puis c'est... Tu sais, ça résonne parce que c'est vrai que pendant dans les derniers mois, moi, je sentais un certain désengagement, puis je t'en parlais, puis tu disais que, tu sais, que non, que c'est pas ce que tu vivais. Mais maintenant, moi, j'ai retrouvé comme un peu mon énergie créative, puis qu'on a une nouvelle. Comme on. La suite de Vivace, parce que nous, ça a été aussi ça de se réengager vers Vivace, c'est-à-dire, OK, ben, OK, si on est essoufflé, ben, on peut retourner sur dans la vie normale, en guillemets, trouver des jobs steady, puis comme dès qu'on a un premier site. Un CPE, de recommencer à travailler à temps plein sur d'autres choses, puis il a fallu se réengager vers Vivace. On dirait que c'est comme la vie te met des épreuves, puis c'est à nous de se poser, puis de dire est-ce que c'est encore ça que je veux. Puis la réponse aurait pu être qu'effectivement, c'est pas pour nous qu'on n'est pas fait. T'sais, on est tanné d'être entrepreneur, quoi, c'est ça. Moi, je pense que je doutais de mes capacités d'entrepreneur, mais j'ai jamais vraiment douté que c'est ce que je veux faire dans la vie, puis j'ai des idées jusqu'au jour de ma mort. Mais fait qu'on est comme, on s'est réengagé vers Vivace, puis on a trouvé une façon de recommencer à créer qui résonnait beaucoup plus avec ton style qui est d'improviser. Puis je pense que là, ton énergie aussi est revenue, puis ta joie de vivre. Fait que tu me disais à ce moment-là comme, oh non, t'es 100% engagée, mais je le sentais un peu. En tout cas, je le sens. C'est, avant, je parlais pas tant d'énergie, mais là, je suis comme, énergétiquement, t'étais pas disponible, Vincent. Mais bref, tu sais, genre, je pense que... C'est ça. Je pense que là, on arrive dans une phase où on veut parler des problématiques puis de ce qui est difficile. Puis qu'on réalise que c'est pas, ça veut pas dire qu'on est pessimiste, ou ça veut pas dire que c'est lourd puis que c'est dramatique puis qu'on est fou. Puis que, on se réalise, c'est juste l'important, c'est juste d'avoir conscience de c'est quoi le problème. Puis c'est ça après qui nous inspire à agir. Qui fait qu'on développe des solutions concrètes.
Oui, parce que la solution n'est pas puissante s'il n'y a pas de problème. C'est comme, il faut quand même être capable de danser entre ces deux choses-là, là, comme une solution puissante puis un problème grave. Puis, il ne faut pas rester juste... Si on est juste dans le problème, ça devient lourd. Si on est juste dans la solution, les gens... Ça semble pas prioritaire ou ça semble superflu parce qu'il n'y a pas de problème. C'est juste des choses que tu peux faire différemment. Fait, on essaye encore de jongler avec ces deux choses-là.
Fait que c'est ça. Fait que bref, on avait envie de vous dire pour terminer qu'on est toujours aussi dévoué à Vivace.
On s'engage à vous.
et que là, on sent aussi qu'on entre dans une nouvelle phase où, d'un côté, on veut continuer d'expérimenter parce que c'est notre mode d'apprentissage. On a énormément de plaisir à faire ça. Marc Aurel est à un âge où il interagit de plus en plus, puis on redécouvre le monde avec lui. Fait qu'on veut faire plein de choses à ses côtés. Et de l'autre côté, ben, on rentre dans une étape que moi, j'ai eu beaucoup de résistance avant, mais c'était de cristalliser le savoir un peu puis de dire « Hey, j'ai des idées qui peuvent vous servir » puis de le packager de manière plus éducative. Je suis comme nerveuse en parlant de ça, mais c'est ça. Restez à l'affût parce que très prochainement, on va lancer, on va offrir un atelier gratuit. Puis ça va être sur, justement, les forces invisibles qui nous maintiennent inactifs puis qu'est-ce qu'on peut faire pour créer un autre style de vie puis léguer autre chose à nos affaires. Ouais. Ça va être ça le focus. Puis, c'est ça. Puis, on va aussi annoncer comme un grand projet qui nous attend pour 2023. Ouais.
Qui va arriver à peu près en même temps que le 1 an de Vivace.
Oui!
Plus ou moins. Fait que c'est une grosse étape pour
Le 7 pour avril, c'était la renaissance de Vivace. On avait choisi cette date-là parce que c'est l'anniversaire de ma grand-maman qui m'a beaucoup inspirée dans la vie. Et pour ceux qui écoutent cet épisode-ci, comme en rediffusion, puis que vous avez manqué les dates, on va mettre l'atelier en format enregistré sur notre site web où il va y avoir une page pour que vous puissiez laisser votre nom.
Ouais.
Pour être avisé quand il va en avoir un autre.
Ouais. Donc, ça va être dans la description de l'épisode.
Ouais.
On s'assure de le mettre là.
Ouais.
Que vous l'écoutiez sur YouTube ou sur une application de podcast ou sur le site web. Ou, en tout cas, ça va être dans la description.
Dans la description. Puis, en tout temps, vous pouvez nous suivre sur Instagram. On est super actifs en stories presque tous les jours.
Mm-hmm.
Un peu Facebook. Et l'infolettre chaque semaine.
Ouais. Le courrier du vendredi. Chaque vendredi, on envoie trois actions qui mènent à trois idées qui mènent à trois actions.
Parler de design actif.
Dans le lifestyle du design actif à la maison. Fait que inscrivez-vous, puis vous allez être au courant de toutes ces choses.
À bientôt!
À bientôt!